Linares à venir nous rejoindre. Et au fur et à mesure, on aura deux autres témoins. Après, on fera une petite pause médiévale. Et ensuite, on reprendra sur nos trois autres témoins intervenants. Donc, Didier Linares au sujet de l'association Jeunes et Entreprises, Jeunesse et Entreprises, je crois, enfin, précisera, qui est basée en Charente, mais il peut y en avoir un peu partout dans toute la France, je crois. Donc, merci et je vous laisse vous présenter cette association et ce que vous pouvez faire en direction des jeunes.
Bon, je vais. Faut appuyer quelque chose. Oui, ça marche. Je vais balancer la. L'après-midi. Donc, je représentais ici Jeunesse et Entreprises. Jeunesse et Entreprises, c'est une association nationale qui a été fondée il y a une trentaine d'années, même 30 ans exactement, puisque on fête cette année trentenaire. Et par un monsieur que vous devez souvent connaître, c'est monsieur Yvon Gattaz, père de Pierre, qu'on connaît encore plus. Et donc, déjà dans les années 80, il y avait eu un pressentiment en se disant, on parle des entreprises, on a des jeunes qui sont en formation, mais il n'y a pas beaucoup de passerelles, pas beaucoup de liens qui se créent entre ces deux mondes. Donc cette association, le but de cette association, c'est essayer de faire des passerelles entre le monde de l'éducation, le monde de la formation, les jeunes, les parents, et les professeurs et donc l'entreprise. Donc, au sein de l'association, nous avons des adhérents professionnels, des chefs d'entreprise, des commerçants, des choses comme ça. Et puis, de l'autre côté, tout ce qui est formation. Donc, les lycées, les collèges, les centres de formation. Et donc, on essaye de, nous, au milieu, donc, au niveau, disons, de la vie de tous les jours, c'est quand même beaucoup des anciens comme moi, donc on a un peu plus de temps libre. Par contre, nos membres sont des gens qui sont professionnellement en activité et à qui on fait appel quand il y a sur les besoins ponctuels. Donc on intervient souvent dans les lycées, dans les débuts d'année pour présenter l'entreprise. Nous parrainons les petites entreprises au niveau des lycées. Nous travaillons, nous intervenons au niveau des stages et des recherches de stages, les travaillent sur les CV des jeunes. Et donc voilà, donc on est installé, nous, en Angoulême. Il y a donc des associations JE sur toute la France. À Poitiers, je sais qu'il y en a une qui est en train de se former. Et on fait appel à nous pour essayer de créer ces liens. Donc les professeurs nous appellent quand ils suivent leurs besoins, les proviseurs, les parents des fois, pour avoir des contacts avec les entreprises. Donc voilà notre rôle. Et donc nous, on se tient à la disposition de toute cette population-là pour créer ces choses et pouvoir essayer de répondre à ces questions-là. Voilà, donc c'est relativement simple, mais on a un travail sur le terrain très intéressant, puisqu'on on crée ces liens et on essaye de répondre positivement à l'ensemble de ces jeunes. Voilà.
Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples concrets et puis en même temps, est-ce que ça permet de faire évoluer cette relation entre le monde de l'entreprise et le reste de la société ou pas ?
Disons, lorsqu'on intervient, lorsque les chefs d'entreprise interviennent auprès des jeunes, ils se créent des espèces d'osmose et les jeunes découvrent un peu un milieu qu'ils ne connaissaient pas. Donc, il y a souvent des déclics, ils se créent des relations, ils se créent des choses. Des fois, c'est pas très palpable, mais le jeune, il ressort un petit peu différent de ce qu'il était. Et on essaye de leur expliquer ce que c'est l'entreprise. C'est-à-dire que l'exemple, c'est on leur dit, vous voyez, quand vous jouez au rugby, il y a des règles de rugby, quoi. Si vous venez sur un terrain de rugby, vous jouez avec les règles de foot, ça va pas le faire. Et bien, dans l'entreprise, il y a des règles. Mais si vous les connaissez, ben ça, vous arriverez à jouer, à être bien dans l'entreprise. Si vous ne les connaissez pas, ben vous allez jouer un petit peu à côté et ça ne va pas le faire. Donc on essaye de leur expliquer toutes ces règles, de voir un peu comment ça se passe, la vie de l'entreprise, qu'est-ce que c'est. Ils connaissent bien la vie de leur lycée, ils connaissent bien la vie de leur association sportive, mais ils ne connaissent pas ce monde et les règles de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on essaye de leur montrer.
Alors ça, c'est le versus société civile, je dirais, mais du côté des entreprises maintenant, elles acceptent facilement, elles rechignent,
alors,
elles y vont.
Bien sûr, les entrepreneurs qui viennent dans notre association, c'est parce que ils ont aussi un besoin, c'est-à-dire ils savent bien que les jeunes, c'est bien eux qui vont faire l'avenir de leur entreprise, et c'est carrément un échange, c'est-à-dire que l'entrepreneur prend du temps à venir dans le collège, dans le lycée, mais il sait aussi qu'il va créer des liens avec ces jeunes qui viendront un jour travailler chez lui et qui connaîtront exactement comment ça se passe dans son entreprise. Donc c'est du donnant-donnant, hein. Je crois qu'il y a ça se passe dans ce sens-là, et je pense que tous les chefs d'entreprise qui interviennent dans notre association sont très contents de ces relations-là. Ils trouvent des stagiaires, ils ont des jeunes qui viennent dans leur entreprise. Ces jeunes, même s'ils ne restent pas dans cette entreprise-là, ils vont ailleurs et ils ont connu l'entreprise. Ça crée des réseaux, ça crée des connaissances. Et la vie d'un professionnel, elle se passe comme ça. C'est ce qu'on essaie d'expliquer à tous ces jeunes.
D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être à M. Linares? Vous vous présentez en même temps puisqu'on enregistre.
Jean-Frédéric Teplitsky, Association Famille Rurale. Et moi, je vais vous parler du Sud-Vienne, de la ruralité. Quels sont les liens de votre association avec le monde rural?
Alors, si le monde rural, par exemple, nous, je sais qu'on intervient à Ruffec, par exemple, dans le collège Louise Michel de Ruffec. Et je pense que les jeunes qui sont dans ce collège-là viennent bien autour de Ruffec, de la ruralité. Et donc on a cette action-là auprès de ces jeunes-là. Donc je pense qu'à travers ça, on essaie de leur faire découvrir un peu ce qui se passe dans l'entreprise et leur expliquer que des fois, je sais que l'année dernière, on avait eu justement une discussion avec ces jeunes-là sur la ville, quoi. On leur disait, moi j'avais été assez étonné, même avec mon grand âge, en voir des jeunes qui disaient de Ruffec, il y en avait qui n'avaient jamais été jusqu'à Angoulême, quoi. Et là j'étais descendu d'un cran en me disant, donc moi je leur disais, vous allez à Angoulême comme si c'était naturel, alors que pour eux c'était pas naturel. Et c'est vrai que il y a des choses qu'on oublie un peu et on croit que 30 km ou 50 km c'est rien, et c'est des fois c'est beaucoup. Et j'avais découvert ça à Ruffec justement avec ces jeunes là. Et parce que quand je parlais de la suite de leurs études, les centres de formation, et je leur disais, vous allez aller à Angoulême, au collège, au lycée, au lycée professionnel, au centre de formation, ils ne voulaient pas quitter, et ils ne trouvaient pas. Donc on avait parlé beaucoup là-dessus, et on a essayé de les pousser un peu à aller voir un peu plus loin. Et c'était une question qui m'avait interrogé. Pourtant,
côté chef d'entreprise du monde rural, rejoint-il votre association? Est-elle connue? Êtes-vous en lien, par exemple, avec l'association des entrepreneurs du Sud-Vienne, qui compte quand même 160 adhérents, qui est une grosse association? Et il y a de nombreuses autres associations de commerçants, etc., dont chefs d'entreprise. Est-ce qu'ils vous rejoignent? Est-ce qu'ils vous connaissent?
On ne doit pas être bien connus parce que, avec votre question, j'essaie de repenser. C'est vrai que on est quand même un peu centralisateur dans nos grandes villes et dans nos grandes régions. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus aussi.
Et ça sera peut-être l'objet de l'antenne départementale Vienne, si elle se crée. Ouais. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Bien, écoutez, vous pouvez rester là, puisque vous participerez un peu au débat. Donc je vais appeler Sébastien Carnac et puis Jean-Marc Neveu en même temps, parce que je pense que là, il y a un rôle complémentaire. Chacun va intervenir, évidemment. Donc on va commencer par Sébastien, qui va nous parler du lien entreprise-culture, mais vu du côté de la culture, peut-être. Et puis Jean-Marc, qui a été président du CJD, est très actif encore sur Entreprendre pour apprendre. Lui, il nous parlera peut-être de la culture versus entreprise. Sébastien, je vous laisse le soin de vous présenter en même temps.
Oui. Bonjour à tous. Donc Sébastien Carnac, je dirige l'association qui s'appelle Aquitaine Culture. Donc c'est un pôle ressources régionales culture et entreprise. Donc on fait le lien, on est une structure d'intermédiation, on fait le lien entre le monde culturel et le monde de l'entreprise à travers différentes actions que je vais vous expliquer. La première d'entre elles s'appelle, on organise des rencontres entre chefs d'entreprise et artistes contemporains d'un même territoire. Alors on est, quand on parle de territoire, on est pour le moment sur la région Aquitaine, donc pas LPC pour le moment, mais que Aquitaine, sur trois départements, la Gironde, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques. Et donc on fait ces rencontres qu'on a appelées des rencontres socialement improbables, ces rencontres donc entre chefs d'entreprise et artistes contemporains, parce qu'en fait on s'est rendu compte que les chefs d'entreprise avaient une connaissance du secteur culturel qui était très 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 faible. Sociologiquement, ce ne sont pas des personnes qui fréquentent énormément des lieux culturels. Donc quand on arrive avec une proposition culturelle ou artistique, ouais, ils sont très très loin de ce domaine-là. Donc il y a toute une approche d'abord. Faut qu'à la fois, pour faire des choses avec eux, il faut que ça soit utile et qu'on crée, on arrive à créer de la confiance des deux côtés. Donc sur ce travail-là de rencontre, on en fait surtout dans des zones rurales, des trois départements que je vous ai cités, et plutôt à des coopératives d'entrepreneurs, des clusters, des clubs d'entreprises, plutôt à des regroupements d'entreprises. Tout secteur confondu en termes d'entreprise. Là, on en a fait une en Lot-et-Garonne avec des artisans, plombiers, chauffagistes, électriciens. Donc, c'est vraiment. Et des danseurs contemporains. Voilà, à peu près type de rencontre qu'on peut faire. Donc, ça, c'est un projet, c'est une action qui a été reconnue d'innovation sociale territoriale. On a été lauréat de l'AMI au niveau de la région et on fait partie du prix ESS en innovation sociale. Après, donc, on a une autre action qui est, on a six grandes actions. Donc, ça, je vous en cite, c'est une première. La deuxième, on travaille sur la création d'une plateforme numérique de mécénat culturel en nature. Parce qu'on a récupéré pas mal de mécénats en nature pour le secteur culturel. Donc, c'est tout ce qui n'est pas numéraire. On a beaucoup de difficultés encore à récupérer des dons financiers, mais on a des dons en nature. Ça fonctionne assez bien. Surtout sur des territoires, sur nos territoires à nous. Enfin, on a expérimenté. Donc on crée cette plateforme, là aussi on a remporté un autre AMI en économie collaborative pour essayer que l'offre et la demande entre du côté artistique et du côté des chefs d'entreprise ça puisse se réunir sans besoin d'intermédiation. Donc ça c'est ça. Après on travaille sur la formation à l'entrepreneuriat culturel, donc ça c'est plutôt en direction des acteurs culturels du territoire, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait former ces acteurs culturels à aller rencontrer l'entreprise et être dans une posture et une dynamique entrepreneuriale. Donc là, ça rejoint la thématique d'aujourd'hui sur jeunesse et entrepreneuriat. Parce que même, quel que soit le statut juridique dans lequel nous évoluons, c'est plutôt l'entrepreneuriat, pour nous, c'est une posture. C'est d'être dans une dynamique d'entreprise, d'entreprendre, avec la notion de modèle économique, la notion de diversification de son offre, de marketing, voilà. Et tout ça appliqué au champ dans lequel on a la discipline dans laquelle on évolue. Donc voilà ce qu'on fait pour préparer les acteurs culturels dans cette posture entrepreneuriale. Puis après on fait ce qu'on appelle de la créativité entrepreneuriale. Donc quatrième grand axe où là on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin du côté des entreprises d'apporter des fois de contenu artistique. Alors tout simplement pour faire clair, on a inventé un nouveau métier qui est apporteur d'affaires artistiques, c'est-à-dire que quand on va voir une entreprise, au début on a commencé, donc la structure existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant, et en fait on était parti pour aller voir l'entreprise pour du mécénat, et en fait on est reparti avec une prestation, et on s'est dit c'est très bien aussi, il faut démarrer quelque chose avec l'entreprise, c'est pour ça qu'on est plus dans ce lien. Après, il se traduit comme il doit se traduire, c'est-à-dire peut-être que ça va être de la prestation, peut-être que ça va être du sponsoring, peut-être que ça va être du mécénat, peut-être que ça va être juste un début de coopération, un échange d'informations, Mais c'est déjà enclencher quelque chose du côté à la fois du secteur culturel et de l'entreprise. Voilà, avant-dernière mission, on travaille dans l'innovation, vous l'avez vu, intrasectorielle de notre secteur d'activité, qui est l'économie culturelle et créative, qui est un secteur qui est très innovant au point de vue artistique, mais qui n'est pas très innovant du point de vue systémique. C'est-à-dire que le système de fonctionnement de cette économie, ça reste encore... c'est pas là où il y a la plus grande innovation organisationnelle. Mais par contre, on essaie de travailler sur de l'innovation intersectorielle, c'est-à-dire on s'est posé la question en quoi notre économie, l'économie de la culture, de la création, est source d'innovation pour les autres économies. Donc là, on travaille avec le développement économique industriel de la région pour mettre en, pour intégrer des artistes dans des phases de R&D, dans des conseils d'administration, dans de l'innovation commerciale, innovation de produits, innovation de services, au-delà de leurs connaissances esthétiques ou artistiques. Voilà. Mais c'est plutôt sur la connaissance métier de chacun des artistes. Et puis, ouais, puis la dernière mission, donc on gère un fonds de dotation culturelle régionale de redistribution. Donc ça, c'est assimilé à une fondation. Bon, ça, c'est notre outil de défiscalisation pour pouvoir recevoir des dons et pouvoir les redistribuer. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de notre activité. Donc notre modèle de financement est un modèle hybride public-privé. On est dans une économie mixte. On est aidé par la région Aquitaine, les départements Gironde, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques. Et après, on a une vingtaine d'entreprises autour de nous, plutôt des TPE. On a une ETI, des coopératives, parce que le réseau des coopératives répond assez bien. Et puis, voilà, plutôt numérique et énergie renouvelable. En typologie d'entreprise, voilà, c'est aussi générationnel aussi. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui.
Tu pourrais évoquer peut-être les images réciproques, pour aller vite, hein, je caricature, oui, des deux mondes, le monde de l'entreprise et le monde de la culture.
Bah alors, c'est deux mondes qui n'ont soit aucun rapport et qui ne se rencontrent pas. Donc, on a des vignes qui se développent, mais de manière parallèle sur un même territoire. Bon, là, on a fait une expérimentation en Lot-et-Garonne, donc avec 60 chaînes d'entreprises plutôt du secteur du bâtiment. Et des danseurs contemporains qui sont installés à Mézin aussi, en Lot-et-Garonne. Donc, on a fait cette rencontre-là au Florida à Agen. Bah, par exemple, le culturel, le chef d'entreprise croyait encore que c'était un cinéma, que ça fait 25 ans que c'est une scène de musique actuelle. On a des artistes qui ne veulent pas dîner avec des chefs d'entreprise, voilà, ou qui ont des difficultés. Voilà. Le discours aussi est pas forcément. La vision aussi de rentabiliser cette rencontre, c'est-à-dire je leur ai dit ben voilà, venez avec des documents de communication, venez avec pour que l'histoire puisse continuer après. Donc là, on est en train de se poser la question avec des chercheurs sur qu'est-ce qui fait rencontre. À quel moment on peut dire qu'il y a eu rencontre quand on fait rencontrer comme ça deux mondes? Est-ce que c'est au moment où il y a des projets qui existent après cette rencontre? Est-ce que voilà, donc on est en train de réfléchir là-dessus pour peut-être remettre en place aussi des techniques de créativité pour qu'il y ait encore plus de rencontres. Parce que vous faites réunir des artistes et des chefs d'entreprise dans une même pièce. Au bout d'un moment, c'est pas pour ça qu'ils se rencontrent. Il y a le coin des chefs d'entreprise, le coin des artistes, et voilà, ça se. Bon, mais c'est humain, hein, mais ça se rencontre pas forcément. Tout le monde reste dans son petit monde, avec bien son. Chacun a ses préjugés, ses a priori, sa posture, voilà. Donc ses intérêts qui sont différents, tout ça. Donc il faut mettre en place, voilà. Là, on est parti plutôt sur des témoins, sur la prise de parole de chaque partie. Mais voilà, là, on est en train de réfléchir aussi à des techniques un peu plus actives de créativité pour que la rencontre puisse se faire, que l'histoire puisse continuer sans passer par nous. Nous, on est juste là pour être un accélérateur à un moment donné, comme une école, enfin quelque chose de cet ordre-là, une formation-action, et puis après que ça puisse continuer sur, sans nous. Voilà.
Peut-être quelques questions, quelques remarques, voilà.
Bonjour, Patrick Tréguer, je travaille ici à l'Espace Mendès France sur un pôle de création numérique. Oui. On reçoit régulièrement des artistes en résidence artistique et il existait un volet dans l'ex-région Poitou-Charentes, puisqu'on est dans une zone de mutation, et qui était très peu connu, c'était les projets de résidence artistique en direction des entreprises. On a essayé de mettre ça en place, ça a été assez galère. On a pu constater la différence, enfin moi ce que j'appelle sociologiquement le différentiel de langage, oui. Au-delà du vestimentaire. je pense que c'est vraiment un problème de langage avec les mots redondants. Enfin, moi j'ai plutôt tendance à dire le rapport entre création et créativité qui sont pour nous deux mondes et deux approches distinctes et pas forcément antinomiques toujours. Sur les questions de résidence artistique en entreprise, est-ce qu'il y a déjà eu de ce genre d'expérience dans les trois départements sur lesquels vous travaillez? Parce que je trouve que c'est quand même une bonne proposition pour essayer de se connaître en interne, en tout cas.
Alors, on va l'initier, je pense, peut-être début de l'année prochaine, parce qu'on a des entreprises qui sont partantes pour mettre à disposition des espaces. Voilà, on a notamment des châteaux qui sont prêts à mettre leurs châteaux à disposition pour des résidences d'artistes. Maintenant, on se pose la question des aspects juridiques aussi, au niveau des assurances, au niveau... voilà. Donc ça se construit gentiment, mais effectivement, il y a notamment à travers le projet de la plateforme numérique de mécénat culturel en nature. Donc ce type-là de mise à disposition pourrait rentrer dans du mécénat en nature. Donc on y travaille, mais c'est un peu compliqué parce que ça dépend quelle discipline artistique aussi. Là, on a laissé des photos dans des entreprises, dans des salles de réunion, tout ça, et les photos ont été un peu abîmées par la vie de l'entreprise, qui voilà, c'est un peu pris comme des objets de décoration pour l'entreprise et non pas comme des objets d'art. Donc on se pose la question qu'est-ce qu'on peut mettre aussi dans une entreprise, éducation aussi des salariés vis-à-vis de ces œuvres qui sont mises à disposition. L'art vivant, c'est une autre difficulté. on va faire une opération à Hendaye avec la gare et connexion et la gare d'Hendaye. Voilà, donc avec des artistes plasticiens. Donc là, on se pose la question avec le flux du public, comment on fait pour protéger les œuvres tout en les rendant accessibles. Mais c'est des nouveaux espaces de médiation, en fait.
Oui, bonjour, Christine Citeau. Je suis responsable de formation au CNAM. Je m'occupe de l'école Vaucanson, qui est une nouvelle école qui va ouvrir au CNAM, qui est destinée au bac professionnel, et qui donc va travailler une pédagogie complètement nouvelle par projet, où la place de l'entrepreneuriat va être importante. Voilà, d'où ma présence aujourd'hui. Et j'ai une autre casquette, je m'occupe d'une structure qui s'appelle Escale Créative, donc je travaille sur l'innovation pédagogique et collaborative. Je réagissais juste pour vous dire que j'ai vu récemment une initiative très proche de ce que vous évoquez. Je ne sais pas si vous avez vu les travaux, ce qui a été fait avec Schneider Electric à Angoulême.
Non.
Donc il y a eu un photographe reporter de guerre qui est venu en immersion chez Schneider Electric et qui a eu comme travail de prendre en photo. Il a travaillé sur des photographies des espaces de travail et il a fait une exposition qui travaille sur la notion de trace, la trace, etc. Enfin, toutes ces dimensions-là de mémoire dans l'entreprise. Et ça a complètement été co-construit avec l'équipe managériale et il y a eu des travaux d'éducation à l'image. Mmh. Il a utilisé des photos de guerre qu'il avait pu faire dans le cadre de ses différentes activités en tant que reporter de guerre. Et il les a transformés et il y a eu des espaces de médiation dans certains espaces de l'entreprise avec les collaborateurs. Si vous avez l'occasion de voir, c'est exposé en Charente au Modillon, l'espace des Modillons. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu une telle émotion devant des photos. Je trouve que le travail et le résultat qu'il a obtenu dans l'espace que vous évoquez est assez fantastique.
De toute façon, il faut que ça soit co-construit avec l'entreprise. Il faut arriver avec un projet assez précis. Mais tout en restant ouvert. Ça, c'est un peu la difficulté de l'exercice. Ouais.
Je vais donner la parole à Yvonne, mais puisqu'on parle de la grande région, est-ce que... Bon, il y a Aquitaine Culture. En Poitou-Charentes, je suppose qu'il y a des organismes proches, plus ou moins proches, j'en sais rien. En Limousin, donc je sais pas. Quel est l'état de la...
Non, justement. Donc là-dessus, on travaille avec la DRAC là-dessus, puisqu'en Poitou-Charentes, il y a pas de structure équivalente, enfin du moins on n'en connaît pas institutionnellement, peut-être, ni en Limousin, donc on travaille sur la grande région, mais cette dimension-là, mais ça se construit petit à petit. Nous on est encore jeunes, hein, on est à 3 ans d'existence, donc on a encore plein de choses à prouver, donc on travaille avec la DRAC là-dessus, les 3 DRAC, sur ces questions-là, mais sur le territoire à LPC. Et puis, par contre, ça existe dans d'autres régions, mais qui sont plus orientées que mécénat. Mécène du Sud à Marseille, Bretagne mécénat, Pays de la Loire mécénat, voilà. Mais bon, l'entrée mécénat est très intéressante, mais tous les territoires ne sont pas prêts, toutes les entreprises de tous les territoires ne sont pas prêts. Donc, déjà le lien avec l'entreprise, et puis après on voit quoi. C'est peut-être le mécénat dans un second, troisième temps. Voilà.
Bonjour tout le monde, je me présente Yvonne Rabenjamina, je suis porteur de projet et je souhaiterais me lancer dans l'art culinaire de Madagascar et je cherche des entreprises qui ont des cantines pour mettre à leur disposition mon savoir-faire. Qu'est-ce que je dois faire s'il vous plaît? Merci.
Je ne sais pas si je peux répondre à votre question. Donc, vous êtes à la recherche d'entreprises. Je ne sais pas. Il faut vous tourner vers des. Oui, voilà. Parce que ce n'est pas mon cœur de métier, mais après.
Bonjour, Guillaume Pulic pour l'association LADI, je vais intervenir tout à l'heure. Alors pour répondre à votre cas de figure, on a déjà eu ce cas de figure une fois, donc d'une femme qui avait un savoir culinaire et qui souhaitait une cuisine aux normes pour pouvoir travailler. Et elle s'était mise en relation avec les chantiers d'insertion, notamment chantiers d'insertion qui interviennent dans la cuisine pour pouvoir leur soit avoir une mise à disposition de la cuisine au moment où elle n'est pas utilisée, soit avoir... soit avoir sinon une petite location. Donc, mais en tout cas, les chantiers d'insertion étaient plutôt réceptifs et pas fermés sur cette thématique-là.
Je peux répondre avec mon expérience. J'ai réfléchi, je vais répondre à mon expérience. Moi, j'arrive du secteur culturel, donc je ne connaissais pas du tout les entreprises. Alors, comment j'ai fait pour rencontrer des entreprises? Je me suis inséré dans des réseaux. Des clubs d'entreprise, CJD, BNI, des réseaux d'affaires, les CCI, et puis voilà. Et puis j'ai d'abord commencé aussi par moi, c'est-à-dire autour de moi, qui je connaissais comme chef d'entreprise. Voilà comment j'ai commencé. Et puis ces personnes-là, je leur ai dit de m'amener 5 personnes, 5 autres chefs d'entreprise sur lesquels je pouvais les appeler, parce que je fonctionne par recommandation. Puis après, ils m'ont amené d'autres, et puis voilà comment j'ai fait. Voilà, si ça peut vous aider, voilà.
Alors, je voulais juste rebondir sur la notion d'utilité. Donc Florent Blin, animateur culturel. Je suis sensible à votre témoignage, puisque c'est un petit peu ce qu'on essaye de mettre en place et d'expérimenter dans l'entreprise de Monsieur Neveu, qui est à côté de vous à l'estrade. Pour rebondir sur la notion d'utilité que vous avez évoquée au début, et c'est vrai qu'une, à mon avis, un des défis de ce type d'action, c'est de prouver aux entreprises que la culture artistique peut leur être utile et bénéfique, et de l'autre côté, de faire en sorte que les artistes perçoivent l'entreprise comme un outil et un lieu de création, et pas juste comme une grosse tirelire, parce que en général, dans le meilleur des cas, c'est un peu la vision qui est véhiculée.
Oui, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu et le changement de posture. C'est-à-dire qu'on fait sans arrêt du changement de posture pour bien comprendre les intérêts et les enjeux de chacun. Et pour démarrer dans ce type de relation, on part d'abord sur une utilité très concrète de l'entreprise. Modifier un petit peu leur assemblée générale, ou voilà. Donc sur quelque chose de très concret. Et après, on peut aller sur quelque chose d'un peu plus impactant. Sur une autre forme d'utilité.
Bien, justement, puisqu'on posait la question de l'entreprise, la parole, puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres questions après. Jean-Marc, si tu veux intervenir à partir de
ce sujet-là,
oui, comme tu veux, et puis d'autres, les autres aspects.
Oui, en fait, donc Jean-Marc Neveu, 47 ans, dirigeant d'une entreprise dans le domaine de la plasturgie à Châtellerault. Une douzaine de personnes. Et puis, deuxième casquette, vice-président, Entreprendre pour apprendre, Poitou-Charentes. Et je parlais de ça. Par rapport à ce que vous avez dit, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, puisqu'on essaye de mettre ça en place avec Florent. Et ça fait suite à un certain nombre de réflexion par rapport à ce que c'est que la création de valeur sur du territoire. Je crois que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et à partir du moment où on se pose la question qu'est-ce qu'on peut créer comme valeur sur un territoire, c'est quels sont les acteurs qui sont sur le territoire, qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise ou dans le domaine culturel ou dans le domaine administratif, etc. Je pense que c'est ça qui est un peu gênant à chaque fois, c'est qu'on est... la création de valeur n'est pas l'apanage d'un ou d'autres. Voilà, c'est dans cette rencontre-là qu'on peut apporter de la valeur ajoutée. Simplement, on a été habitué, en France notamment, à mettre un peu tout dans des silos. Et du coup, il y a toute une phase qu'on a négligée. Alors, l'expertise, on l'a, hein, je pense. On a un peuple d'experts cultivés. Par contre, dans le domaine de la coopération, on est quand même plutôt nuls. Donc l'idée, c'est derrière comment créer ces passerelles-là. Et du coup, on a tout à construire. C'est peut-être, on est peut-être comme les... faire une analogie avec les réseaux de communication. Ceux qui sont partis de zéro, ils n'avaient pas des lignes fixes, ils sont partis du mobile. Alors peut-être que nous, on va réussir ce pari-là, parce qu'il y a tout à construire dans les systèmes de coopération. Seulement, le problème, c'est qu'on réfléchit avec sur les domaines nouveaux avec des idées anciennes, quoi. C'est-à-dire qu'on repasse sur les mêmes. Vous parlez de réseaux d'entreprise. Et je suis aussi ancien président régional et local du CJD. Et les réseaux, certains sont dynamiques, comme le CJD, mais d'autres sont vieux, sont usés, sont archi usé et du coup on essaye de repasser par des organisations qui montrent tous les jours je cite personne leur inefficacité et plutôt des situations de rente quoi ou de passage obligé et du coup même les acteurs qui veulent changer dans ces organisations là sont incapables de le faire parce qu'on est ramené à des fonctionnements. Alors j'illustre ça de façon très pratique, puisqu'on essaye de monter de l'innovation sociale et culturelle au niveau de notre entreprise, et on nous demande de choisir, soit c'est du culturel, soit c'est du social ou de l'économique. Moi, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que justement, c'est juste à cause de ça qu'on n'en crée pas, voilà, d'innovation sociale et culturelle et économique. Voilà. Donc je pense que c'est QFD, à partir du moment où on utilisera les organisations, et pour me dire ce que vous disiez, d'un côté les artistes et d'un côté les chefs d'entreprise dans une salle, mais c'est même pire que ça, c'est entre les artistes eux-mêmes et entre les chefs d'entreprise eux-mêmes. Voilà, je pense que même dans les chefs d'entreprise, il y a des corporations, enfin je suis même sûr d'ailleurs, il y a ceux qui, voilà, et du coup, moi je pense plutôt faire confiance aux hommes, aux individus et aux rencontres. Alors c'est sûr que c'est peut-être un peu plus long, hein, c'est peut-être moins garanti de résultat. Mais aujourd'hui, force est de constater que les messages passent entre individus. Et parce que c'est des hommes qui sont capables de dire, voilà, je suis dans une organisation, mais je suis aussi capable de passer des messages et travailler avec des gens qui ne sont pas de mon domaine ou qui n'ont pas forcément... Donc du coup, effectivement, j'ai des représentations qui ne sont pas forcément évidentes par rapport à ça, parce que je n'ai pas l'habitude de travailler. Mais... à partir du moment où on est sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait sur un territoire et qu'est-ce qu'on y fait et on a tous le même but d'apporter de la valeur, que ce soit économique, sociale, sociétale, environnementale ou culturelle, je pense qu'on arrive très vite à converger. Voilà, bon, alors ça c'était la partie économie et culture et artistique. L'autre partie, donc moi je suis vice-président dans Entreprendre pour apprendre, qui est une association régionale et à la fois nationale et même européenne, qui a pour but de faire faire aux collégiens, lycéens, post-bac, des mini-entreprises pendant la période scolaire, c'est-à-dire à partir du mois de septembre. Pour les étudiants, ça s'arrête au mois d'avril, et pour les collégiens et lycéens au mois de mai-juin, voilà. Donc en fait, ça part sur du volontariat, donc c'est des groupes de collégiens, d'élèves, qui créent à partir d'une idée, soit un objet, soit un service, Et autour de cet objet de service, et ben, il constitue en fait une organisation projet, et une entreprise en fait, hein, une entité entreprise. Ils vont donc développer la constitution à la fois de la structure et puis à la fois l'activité de vente, puisqu'il y a de représentation de cette vente-là, parce qu'il y a un salon régional qui est fait où ils vont pouvoir vendre leurs produits et leurs services. Alors l'idée de ça, c'est quoi ? C'est de surtout pour des niveaux. Alors ça s'adresse aux collégiens, aux lycéens, post-bac, mais aussi aux élèves des écoles de la deuxième chance qui trouvent un intérêt là-dessus, parce que ça dit un petit peu le message de tout à l'heure par rapport à l'expertise. On a une école qui est très élitiste dans l'expertise et il y a des gamins qui sont en décrochage scolaire. Donc là, on change un peu la problématique de dire, voilà, est-ce que tu es bon pour faire les mathématiques ? Non, là, on est là pour dire, voilà, il y a un projet, ça peut être la construction de poulaillers à partir de bacs à fleurs ou de palettes de récupération. Et sur cet aspect-là, on va travailler ensemble, chacun selon son envie et puis ses représentations de ses envies. Et autour de ça, donc on met donc un responsable pédagogique, bien sûr, qui va les aider dans la conduite de ce projet-là, mais aussi un parrain, on va dire, chef d'entreprise ou responsable ou cadre, etc. Et puis on va mettre un accompagnateur entreprendre pour apprendre. Ça peut être donc des gens de l'AFDET, ça peut être des centaines de personnes différentes. Hein, et puis après, on va mettre avec ça, on va mettre des banquiers qui vont venir leur expliquer comment on gère un compte bancaire, des avocats, et des experts comptables. Donc ils vont rencontrer tous ces gens-là qui viennent en fait autour du projet pour que le projet puisse vivre. Et on ne renverse pas la manœuvre en France, c'est que quand vous avez un projet, vous êtes obligé d'aller voir tous ces gens-là derrière un bureau. Là, c'est eux qui viennent se déplacer. Et du coup, en changeant cette vision, on est là pour accompagner le projet et on désenclave toutes les expertises, hein, je reviens là, et pour la réussite du projet, et bien ça fonctionne plutôt bien parce que les élèves sont enchantés, c'est-à-dire que ceux qui sont en échec reprennent un peu confiance en eux, ça change les rapports entre les professeurs et les élèves, parce qu'on est dans un mode où il n'y a pas de bonne note ou de mauvaise note, en fait. Hein. La bonne note, tout le monde gagne quoi, dans cet aspect-là. Et puis, ça permet aussi aux chefs d'entreprise d'avoir un rôle lié avec l'éducation nationale, parce que ce n'est pas forcément facile de travailler avec l'éducation nationale, qui est très fermée. Ça permet aussi aux experts comptables d'expliquer leur métier. Et du coup, la prochaine fois qu'un étudiant ou qu'un collégien veut monter, enfin plutôt les étudiants, veut monter une entreprise, il aura un rapport différent en termes de représentation. Du coup, ça va lui coûter moins cher en termes de déconvenus. Et je trouve que ces allers-retours entre l'éducation, et puis là on est sur un mode d'apprentissage en fait, hein, de façon différente, en faisant les choses et pas en apprenant, en faisant. Ça fait la réussite. On a commencé l'association il y a 5 ans, il y avait 5 projets, on en est à plus de 80 maintenant, sur l'ensemble, même dans le monde rural, j'en parlais de ça. On est partout. La limite de notre système, c'est qu'on ne peut pas lutter contre tout l'échec scolaire de l'éducation nationale, même s'ils nous le demandent. On n'est que des bénévoles. Moi, je fais ça sur mon temps. Le modèle, il est plutôt sur un mode de bénévolat. Donc, ça fonctionne extrêmement bien. Mais la limite, c'est, c'est qu'on n'est pas assez nombreux pour faire du travail correct, c'est-à-dire un travail de déconstruction des représentations des uns et des autres, ça prend du temps. On n'apprend pas, c'est pas parce qu'on a internet qu'on apprend à jouer du piano en 5 minutes. Voilà, donc il y a tout un travail de déconstruction et de rapprendissage à travers le projet. Voilà. Et quand vous allez assister au salon régional, donc l'année dernière c'était au Futuroscope, et puis cette année ce sera à Niort, si je ne dis pas de bêtises, vous verrez, c'est extraordinaire, puisque les gamins vendent leurs produits, c'est fabuleux, quoi. Ils ne voyaient pas de différence entre des collégiens, des lycéens. Ils ont une créativité, une capacité de rebond, parce que bien sûr, les mini-entreprises, elles n'ont pas une vie linéaire. Hein. Des fois, ils s'engueulent. Des fois, ils virent leur PDG. Des fois. Mais c'est extraordinaire, parce que on croit que tout est fini et tout recommence. Et je crois que c'est ça qui est plaisant. Ils font l'expérience de ça. Et quand ils marquent sur leur CV, je parle pour les étudiants, qu'ils ont créé une entreprise, qui communiquent là-dessus, enfin, c'est. Pour eux, ils ont gagné, c'est pas un stage, ils sont déjà dans leur construction de projet et ils vivent le projet. Ils vivent le projet, ils n'attendent pas d'avoir fini. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions.
Des questions, des remarques ?
Alors, à propos de PA, je vais intervenir. Parce que j'ai rencontré une micro-entreprise, Flashcode Entreprise, à la MFR de Jansay. J'ai été assez bluffé par leur travail, au point que faisant une présentation au Crédit Mutuel pour le compte de familles rurales sur la solidarité entre associations de familles, j'ai invité ces jeunes à venir présenter leur projet eux aussi au sein de l'association. Je trouve que c'est un excellent projet parce qu'il induit aussi un phénomène de solidarité intergénérationnelle. Et donc de ce point de vue-là, on a quelque chose qui devient extrêmement riche.
Ah oui, alors, il y a un exemple qui me vient en tête. Là, il y a une start-up. Alors, je ne sais pas, la start-up, c'est pour les étudiants. Je crois que c'est de l'université, ouais, de Sciences Éco, qui vont faire, alors, ce n'est pas des défilés de mode, mais presque, dans les maisons de retraite pour vendre des produits et créer donc à la fois du lien social pour dire, voilà, on va faire une animation et en même temps on va vendre nos produits. Bon, alors voilà, et je trouve que ça, c'est de l'innovation vraiment incroyable, parce que les maisons de retraite, enfin voilà, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de vie. On considère que vous êtes dans le silo. Et du coup, voilà, on crée à travers les jeunes, à travers leurs projets, voilà, de quoi ils ont besoin, comment ils vivent les choses, et on réinvestit les espaces. De manière différente, l'entreprise, on réinvestit l'entreprise de manière différente, on réinvestit les maisons de retraite de façon différente. Et en gros, ben, on crée du lien, et à partir du moment où on crée du lien, tout est possible. Quoi, voilà.
Je ne saurais trop conseiller tous les gens qui peuvent inciter tous ces jeunes à faire entreprendre pour apprendre, parce que l'année dernière, à Angoulême, en tant qu'AGE, on a parrainé deux entreprises d'entreprendre pour apprendre. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, la vie de ces jeunes entre eux, quoi. Et rien que ça, c'est au niveau de la formation, c'est le mieux qu'on peut leur apprendre. Et là, moi, je crois que là, c'est vraiment... Il faut y aller, là.
Bonjour, Monsieur Guidet, mon assistant numérique. J'avais une question par rapport aux jeunes que vous accompagnez. Est-ce qu'ils se rendent compte de la difficulté de la prospection dans votre accompagnement ? Parce que quand vous faites un salon, quand vous faites la création d'entreprise, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un petit peu facile, les statuts, il y a de l'accompagnement, mais la réalité du terrain, la prospection client, trouver des nouveaux clients.
Ah ben, effectivement, trouver des nouveaux clients, trouver des... Alors les clients, c'est pas forcément les plus... C'est pas forcément les plus difficiles à trouver. Alors pour les cas, moi j'anime surtout la partie supérieure. C'est parce que les clients, ils en ont naturellement, la famille, le cercle, etc. Mais trouver les fournisseurs. Je vais dire un exemple, hein, c'est... vous avez, je sais pas combien il y a d'étudiants ici, 30 000, non, ou quelque chose comme ça. Et en fait, les étudiants du supérieur qui viennent à Poitiers, ils connaissent le campus et le campus et le campus. Et du coup, quand vous leur dites, ben voilà, vous voulez vendre des produits, je prends un exemple, ils voulaient une start-up qui s'appelait ThemaBox, qui vendait des boîtes box, alors vous abonniez. Et alors la question, c'est de dire, qu'est-ce qu'on met dedans dans ces box ? Ben, je dis, les produits locaux, et c'est quoi les produits locaux ? Donc déjà, bon... Et puis après, je dis, mais allez voir les entreprises, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer comme produits locaux ? Et alors là, comme vous dites, c'est quoi les entreprises du coin ? C'est quoi le territoire ? Et du coup, je les ai emmenés en voiture, on a été quelqu'un qui fait du, qui fait des produits, qui fait du thé, enfin une sorte de thé, je sais pas, pour faire de la pub pour lui. Hein. Et du coup, alors le gars, le chef d'entreprise au départ, il comprenait pas trop, il pensait qu'ils étaient là juste pour acheter des produits. Puis après, il a compris l'interaction qu'il pouvait y avoir. Et du coup, une méconnaissance totale du territoire aujourd'hui. Et du coup, les gamins, ils découvrent ça et c'est extraordinaire parce que c'est. Et c'est là où on voit qu'il y a chacun dans son silo. C'est que si vous passez par la CCI pour avoir une liste de produits locaux, ça marche pas. En fait, c'est les réseaux alors d'entreprises quand ils sont agiles, mais c'est aussi les personnes qui sont dans l'association qui sont des relais pour de l'information en disant la connaissance du territoire, une connaissance assez fine. Il y a quelqu'un qui peut vous aider sur tel et tel projet. Il y en a d'autres qui peuvent vous aider. Mais le mieux, c'est allez-y, quoi. Allez-y voir, allez-y sur le terrain, allez-y rencontrer. Ce sera beaucoup plus riche par rapport à une fiche descriptive d'une entreprise. Et c'est ça, la richesse et l'expérience aussi, c'est ces rencontres-là en disant, bah ouais, sur ce territoire-là, il y a des gens qui, tous les jours, qui vivent, qui font des choses avec des bouts de ficelle et ils font des choses extraordinaires. Donc allez les rencontrer, ça les met en valeur eux et puis ça vous enrichit vous, quoi.
Oui, Vincent Carrier, je suis enseignant au lycée de Civray dans le sud de Vienne. Et moi, c'est une demande un peu par rapport à Entreprendre pour apprendre, parce que je trouve que c'est un dispositif qui est vraiment ultra pertinent. Et moi, j'avais essayé, dès que j'étais rentré au lycée, j'avais parlé aux collègues, enfin tout personnel, de monter une entreprise au niveau du lycée. L'objectif que je trouve qui est très intéressant au sein d'un établissement. En France, on a un gros problème on en a déjà parlé un petit peu entre nous, enfin tout le monde le sait, de dévalorisation des filières pro, des filières technologiques, tout ça. Nous, on a le problème, c'est vraiment énorme. Et je trouve que dans une entreprise, ça permet justement de faire collaborer tous ces gens-là. Par exemple, nous, on a une filière STMG, sciences et techniques du management et de la gestion, qui est considérée comme une sous-filière. Et ça permet dans une entreprise, évidemment que ces compétences-là, elles sont fondamentales. Les compétences de comptabilité, de management, elles sont fondamentales, celles qui développent, et que les autres filières générales n'ont pas du tout, puisqu'ils sont que dans le théorique, donc ils n'ont pas du tout ces compétences-là. Et je trouve que l'entreprise, c'est très, très intéressant pour revaloriser vraiment un peu toutes les filières. Je trouve que ça devrait être énormément développé dans l'éducation. Alors, mon premier point, c'est que, en fait, j'ai pas obtenu un écho complètement négatif, en fait. Effectivement, ça fait un peu peur, mais c'est pas si difficile que ça, je pense. Après, j'ai quand même une demande par rapport à ce dispositif-là. Je pense que, alors, c'est un peu, on est au début, hein, d'entreprendre pour apprendre, et c'est super déjà ce qui se fait. Ce qui est un peu bridant, je trouve, c'est le dispositif mini-entreprise qui est très bien en soi, mais qui ferme, qui demande que l'entreprise soit fermée à la fin de l'année scolaire. Et moi, je trouve que ce serait très intéressant d'avoir un cadre qui permette de créer une entreprise qui n'ait pas de date de fermeture, c'est-à-dire qui puisse se reconduire d'année en année, une véritable entreprise, véritable, qui soit gérée par les élèves, où il y ait des enjeux de transmission d'année en année, c'est-à-dire que les élèves partent et puis y a ce rouleau là des élèves qui arrivent et en tout cas moi en termes de motivation je sais que le dispositif mini entreprise j'arrive pas à me motiver pour ça parce que je me dis créer une entreprise pour l'arrêter 10 mois après ça j'ai du mal à m'emballer pour ça. Par contre, vraiment, je reste motivé par l'idée de monter une entreprise qui soit vraiment pluriannuelle, pour le coup. Et donc, je trouve que ce serait intéressant. J'en avais parlé à Entreprendre pour apprendre, mais je trouve que ce serait très intéressant qu'on puisse réfléchir à créer cet objet-là, ce cadre-là. Voilà.
Alors, pour répondre à votre question, alors ça a été fait sous une autre forme pour certaines, hein, pas pour toutes. Parce qu'il y a une idée d'une mini-entreprise qui a été reconduite l'année d'après, mais avec une autre équipe. Donc, le dispositif d'entreprendre pour apprendre fait que ça se clôture. Alors, pourquoi pas d'imaginer que ça perdure, hein, mais pour l'instant, c'est comme ça. Il y a un deuxième aspect, c'est qu'il y a quand même l'envie, c'est s'approprier aussi à partir de la page blanche. C'est ça aussi qui fait que pour les gamins, j'allais dire pour les enfants, le fait de créer son nom, de créer son propre produit, etc. Il y a un phénomène d'appropriation assez forte là-dessus, ce qui fait que si on reprend l'idée d'un autre, c'est toujours moins appropriant que ça. Mais les bonnes idées ont été reprises parfois d'une année sur l'autre, mais donc en fait pas avec les mêmes équipes bien sûr, mais avec une autre entreprise. Donc ils ont gardé l'idée, mais ils ont peut-être changé le nom. Et voilà. Mais je pense que il y a peut-être des choses à perdurer ou on a ce que vous dites, on est un peu jeune, il faudrait qu'on liste un peu tous les projets parce qu'il y en a des fabuleux et du coup ça pourrait donner aussi des idées aux jeunes comme une espèce de bibliothèque où ils pourraient prendre des idées et du coup on réinvente pas forcément tout le temps et ce qui est un peu contraignant aussi hein, mais ce qui est riche mais ce qui est un peu contraignant en termes de volume horaire.
Bonjour, je suis étudiante en DUT gestion entreprise administration et j'aurais voulu savoir, est-ce qu'il faut forcément être porteur de projet pour adhérer à des associations comme la vôtre par exemple? Est-ce qu'à 18 ans on peut adhérer à Entreprendre pour apprendre, pour découvrir les actions de l'entreprise?
Alors adhérent non, on n'a pas d'adhérent à titre privé. C'est plutôt des réseaux, des choses comme ça. Par contre, vous pouvez être bénévole. Hein. Vous pouvez apporter votre bénévolat en étant parrain, par exemple, ou marraine, je ne sais pas comment on dit, d'une mini-entreprise. Et pour le coup, vous apportez aussi un certain nombre d'éléments pour les projets. Voilà. Donc, si vous êtes OK, vous donnez vos coordonnées, puis... On fera appel à vous parce qu'on est en recherche de parrains, on est en recherche, comme on est sur un modèle bénévole, c'est plutôt voilà, c'est le temps disponible quoi.
Je crois que c'est vrai que l'action de parrainage au niveau de ces élèves, c'est très 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 intéressant et ça apporte aussi beaucoup aux parrains de voir un peu comment se vit ces choses entre ces élèves. Et parce qu'il se crée des choses vraiment très intéressantes. Et je crois que vous avez raison. Pour des jeunes, si vous voulez adhérer à des réseaux, il faut rentrer dans ce genre de réseau. Vous pouvez venir à AGE aussi. On a créé un réseau de jeunes pour justement que les jeunes puissent intégrer ce genre d'association. Vous avez plein d'associations professionnelles qui intègrent les jeunes dans des juniors réseaux et des choses comme ça. Vous avez les dirigeants commerciaux, les AGE, toutes ces choses. Et c'est très intéressant. Il faut y adhérer. C'est là où vous aurez. Vous verrez ce qui se passe autour de vous réellement. Quoi.
Peut-être avant de passer ensuite à la pause médiévale, tous les deux ou tous les trois d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le lien entre les entreprises et le monde culturel rapidement, comme ça, ou spontanément?
Des réponses, c'est ça?
Des éléments de réponse.
Ouais,
déjà
effectivement au niveau des réseaux, donc il y a des réseaux qui sont plus ou moins efficaces suivant l'objet pour lequel on intègre ce réseau, donc ça sera à vous d'expérimenter chacun des réseaux et puis à vous investir, au moins vous investir, en tout cas si on ne s'investit pas on a du mal à vraiment avoir profité au bon sens du terme du réseau. Je voulais dire aussi quelque chose avant la question, c'était sur le lien entre ce que vous avez dit sur la connaissance des étudiants du monde de l'entreprise, enfin de leur territoire. Donc nous on observe la même chose dans le secteur culturel, quel que soit l'âge, j'ai envie de dire, soit de l'émergence, soit des artistes un peu plus confirmés, mais connaissance des entreprises de leur territoire, vraiment ce qui fait le territoire, parce que bon, ils ont entre guillemets pas besoin de cette connaissance-là pour pouvoir développer leur structure. Donc voilà, peut-être un manque de curiosité ou pas le temps, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, donc il y a une méconnaissance de ce tissu économique du territoire. Donc ça aussi, voilà, on l'observe. Et pour répondre à la question sur comment améliorer le lien entre culture et entreprise, je crois que ce qui est important, c'est de commencer quelque chose, d'initier quelque chose, d'avoir l'audace d'aller vers l'autre, même si l'autre on ne le connaît pas, a priori on n'a rien à lui apporter. On ne se comprend pas forcément parce qu'il y a une différence de vocabulaire ou de rhétorique. Mais bon, voilà, si on est assez intelligent, si on a envie d'y aller, d'avoir l'audace, voilà, d'aller vers l'autre, d'être curieux, je crois que c'est ça qui est important, curieux de l'autre, de ce qu'il fait, voilà, et puis essayer de commencer à faire quelque chose avec lui. Voilà. Et puis, donc après, les choses se font tout seul. Après, on aura des entreprises qui n'auront jamais travaillé avec le secteur culturel, il y a des acteurs culturels qui n'auront jamais travaillé avec l'entreprise, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a des envies de chaque côté, il faut créer le cadre pour que ça puisse se faire. Voilà. Mais il y a beaucoup d'a priori, de préjugés des deux côtés, donc il faut essayer de... Bon, Villard faisait des interventions dans les cantines des entreprises, donc je veux dire, si Jean Villard le faisait dans les années 50... Pourquoi est-ce qu'on l'a perdu, quoi. On est...
Ok. Les deux autres intervenants.
Je crois que si c'est la question entreprise et culture, c'est vrai que c'est... Moi, j'étais chef d'entreprise toute ma carrière. Donc, et c'est vrai que c'est pas naturel de faire rentrer la culture, les spectacles, des choses comme ça. Je sais que moi, à titre personnel, j'essayais à mon niveau justement de faire sortir un peu. Moi, je profitais de l'expérience. C'était sur la région de Cognac où on avait Blues Passion tous les ans. Il y avait des belles soirées. Et donc, j'essayais de créer la soirée de l'entreprise où j'invitais tout le monde à aller à un spectacle. Et donc, on essayait autour de ça de créer un peu des sorties où les gens, c'est la première fois qu'ils allaient voir quelqu'un sur scène, quoi. Donc c'était un peu les premiers pas, mais c'est vrai que c'est pas naturel.
Oui, je pense qu'il faut pas avoir peur, quoi. Faire des expérimentations, nous au CJD on en fait beaucoup, hein, des expérimentations, mais c'est ça qu'il faut, saisir des opportunités d'expérimentation. Et parmi ces expérimentations, il y en a qui marchent pas mal. C'est Vie ma vie, quoi. Pour imaginer 24 heures de vivre avec un artiste ou un chef d'entreprise. Nous, on fait ça avec les gens de l'ENA. On fait vivre ça une chef d'entreprise d'une PME. Donc, voilà. Mais je pense que, voilà, viens vivre ce que je vis au quotidien. Tu verras comment sont les choses. Et du coup, on n'est plus dans la représentation, on est dans ce qu'on vit. Et à partir du moment où on est dans ce qu'on vit, y a des barrières qui sautent, quoi, forcément. On est confronté à la même chose. Donc voilà, faire des vies ma vie avec tout le monde. On pourrait imaginer que... Non, je ne vais pas parler de ça, mais que dans notre parcours professionnel, on ait obligation de vivre des vies ma vie à l'hôpital, vies ma vie... à l'entreprise, vu ma vie en artiste, et puis du coup, on pourra dire qu'on a un peu moins d'a priori de ce qu'on a. Je pense qu'une journée par an, ce serait pas mal. Au bout de 25 ans, on aura fait le tour.
Bonjour à toutes et à tous. Valentin Nicolas, donc développeur d'apprentissage au CFA d'enseignement supérieur et de la recherche de la région Poitou-Charentes. Donc j'ai deux petites questions à poser. C'est notamment sur l'intégration professionnelle donc de ces jeunes qui sont notamment en décrochage scolaire. Le résultat des actions que vous menez par rapport aux différentes associations auxquelles vous présidez. Donc quel est le résultat d'intégration sur le long terme de ces jeunes-là qui cherchent à être entrepreneurs ou à mettre un premier pied dans le monde de l'entreprise? Et ma deuxième question, c'est sur les actions que vous menez, quels sont les retours que vous pouvez avoir, que ce soit du côté des personnes qui intègrent le monde du travail ou du côté des entreprises qui intègrent de nouvelles personnes au sein de leur équipe?
Alors, on n'a pas d'études, nous, sur... C'est pas notre métier. Hein. Donc, je ne peux pas répondre à vos questions. Peut-être que si vous avez du temps, vous pourriez faire une étude au long cours là-dessus. Je pense que ce serait pas mal. Mais notre objectif, il est simplement de recréer de la confiance au niveau des élèves, des étudiants qui sont en décrochage. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe parce qu'on a commencé par un projet à l'école de la deuxième chance, on en a fait un deuxième, un troisième, et aujourd'hui, voilà, on a aussi les missions locales qui nous suivent, etc. Donc je pense qu'il y a... il y a un vrai apport qualitatif, en tout cas, de notre projet. Pour l'intégration derrière, ben, on s'aperçoit que les représentations des uns et des autres tombent un peu. Donc, du coup, ben, c'est plus facile. Moi, j'ai eu. Alors, je ne peux pas répondre à vos questions parce que ce n'est pas notre métier encore. Chacun son métier là-dessus. Mais je vois, il y a un groupe d'anciens mini-entreprises au niveau étudiant qui sont venus me voir dans mon entreprise cette année. Et le niveau de discours a complètement changé. Au lieu de dire, voilà, je vais faire tel master ou tel autre qui va me donner accès à tel métier, voilà, ils sont... Je construis mon parcours pédagogique d'un côté, et donc ça me donne un certain niveau. Par contre, je construis mon parcours... de moi homme économique ou moi femme économique dans le monde économique grâce à l'expérience que j'ai acquise à travers mon expérience de mini-entreprise. Et donc je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est plus une fois que j'aurai mon diplôme, ça va m'offrir telle et telle porte, parce que de toute façon c'est faux, ça marche pas, on sait bien que ça marche pas. Mais on dit, ben voilà, j'ai commencé à créer, je me mets en posture de, on parlait, mais je n'aime pas trop ce mot-là, mais on se met en posture de construire sa vie d'agent économique ou de contributeur économique d'une certaine façon. Donc je crois que c'est, ils prennent conscience que, eh ben, il va falloir, enfin, pour certains, hein, que c'est aussi de leur responsabilité et plus la responsabilité simplement des organisations ou des diplômes qui vont leur assurer un avenir. C'est qu'ils vont aussi faire avec ce qu'ils sont leur parcours professionnel, leur parcours de vie, quoi. Et du coup, s'ils ont aimé, je ne sais pas moi, s'ils ont aimé faire de la comptabilité, on parlait de la comptabilité tout à l'heure, eh bien... alors c'est marrant parce que c'est vrai que la comptabilité en elle-même, elle n'est pas enseignée dans les matières théoriques. Ben, si y en a un qui découvre que la comptabilité ça lui plaît, eh ben, il fera de la comptabilité plus tard son métier ou son expertise. Voilà. C'est ça qu'ils expérimentent. Ou ceux qui aiment bien le management, eh ben, ils feront plutôt des carrières de management. Et c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent en position de manager et il y a beaucoup de chefs d'entreprise féminins qui se mettent en position simplement parce qu'on leur donne la possibilité de l'être, hein, c'est simplement ça. Donc voilà, c'est un changement de... On s'offre des possibilités qu'un certain nombre de représentations ou d'organisations nous empêchent d'avoir.
Nous, en tant qu'AGE, l'année dernière, au niveau de... On a fait un énorme travail avec le CIFOP Angoulême, où on a travaillé, ça s'est passé deux mercredis après-midi avec les jeunes, on en a fait plus d'une centaine, et où on leur faisait prendre en main un peu leur destinée dans la recherche de l'entreprise pour leur formation. Donc on a commencé bien sûr à travailler bien sûr les CV, les choses comme ça, mais les vrais CV qui intéressent, pas dans le prénom et les choses, vraiment s'étudier par eux-mêmes et savoir eux ce qu'ils avaient envie de faire. Et puis après, tout ce qui était mis en place et un peu prospection de leur futur employeur, donc avec toutes les possibilités qu'ils avaient de recherche. Et ça a vraiment très, très, très. Ça fait 2 ans qu'on le fait. Le CIFOP est très, très, très content des résultats, puisque les jeunes, ils se prennent en main dès le début, quoi. Ils n'attendent pas qu'on leur dise tiens, telle entreprise cherche quelqu'un. C'est eux qui font la première démarche. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Et la deuxième chose, je rebondirai sur entreprendre pour apprendre. les jeunes qui participent à ces mini-entreprises, et on le voit naturellement, prennent la fonction qu'ils ont envie de faire. Quoi. Et c'est là où ils découvrent ce qu'ils ont envie de faire. Et je crois que ça, c'est intéressant, parce qu'on le voit bien. Il y en a qui disent, moi, je prends la comptabilité. Et naturellement, quoi. Alors que c'est quand même pas naturel de prendre la comptabilité. Mais pour cette personne-là, c'est naturel. L'autre, il dit, moi, je prends le commercial. L'autre, il dit... Et puis, d'un seul coup, il y en a un qui, ou une qui monte un petit peu au-dessus, puis ça devient le manager, le leader de l'entreprise. Quoi. Et c'est assez étonnant comment ça se crée, ces choses-là. Et ces jeunes, et après, on les sent bien, hein, toute la durée de l'entreprise, ils prennent leur fonction. Et c'est vrai que pour savoir, parce que c'est ce que moi je leur dis toujours, c'est... Il faut qu'ils aient envie de faire quelque chose. Les jeunes, tant qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose, on a beau leur faire faire toutes les études, ça ne marchera jamais. Quoi. À partir du moment où le déclic, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de devenir. Quoi. Et à partir du moment où ils savent, s'ils veulent venir plombier, ben, ils viendront le meilleur des plombiers. S'ils veulent venir polytechnicien, ils viendront polytechnicien. Et je crois que c'est ce déclic-là qu'il faut qu'on essaye de les pousser pour qu'ils aient ce déclic.
Ok, merci. Ce que je vous propose, c'est donc qu'on passe à l'expérience in vivo, si j'ose dire, avec Aurélien Tréjot. Je le laisse le soin de se présenter. Et donc, il va nous faire une lectio. Il va nous expliquer ce que c'est rapidement.
Bonjour à tous.
Je distribue.
Bonjour à tous. J'avais prévu un texte un peu long, en fait, et je pensais que j'aurais un peu plus de temps, donc je vais devoir un peu faire une coupe sombre dans ma présentation. Donc, je me présente, je suis... Monsieur Tréjot Richard, je suis doctorant en philosophie à l'EPHE, qui est un institut rattaché à la Sorbonne. Et je suis le fondateur d'une association qui s'appelle Cercle de philosophie médiévale Boès, qui a pour but de faire renaître la pensée médiévale. Alors vous vous demandez sans doute qu'est-ce que je fais là. C'est sur l'invitation de Monsieur Deniol, que je suis venu et j'ai essayé de mettre en rapport mes recherches avec le propos de cette réunion. Donc si vous permettez, je vais d'abord faire une petite présentation avant de passer à la lectio. Donc je vous remercie de m'avoir invité. Et... Je dirais d'abord que, disons comme motto de cette, comme chose sur laquelle il faudrait réfléchir, c'est que la France est le pays le plus riche au monde. Parce que nous avons en France un patrimoine historique et philosophique, notamment dans la pensée médiévale, qui est sans doute le plus riche de toute l'histoire. Donc l'association Cercle de philosophie médiévale Boès porte le projet de faire naître la pensée philosophique médiévale selon les modes et selon l'esprit de cet âge d'or de la philosophie. Pourquoi faire naître cette pensée, surtout telle qu'elle fut il y a 800 ans? Quel est l'intérêt cela peut-il présenter pour nous à ce jour? En premier lieu, il convient de dire qu'il ne s'agit nullement d'un intérêt archéologique, historique ou folklorique. Il ne s'agit ni de nostalgie ni de passéisme, mais d'une restauration en vue d'une renaissance intellectuelle. Et il me semble qu'il faut, pour y parvenir, passer par cette restauration. Le Moyen-Âge, son étude, constitue, du point de vue de l'effort spéculatif philosophique, de la période la plus longue et la plus riche quant à l'essor de la philosophie et de la théologie. Théologie ici entendue comme doctrine sacrée de l'Église, mais qui fut indissociable de la réflexion métaphysique et philosophique. Il est une raison théorique de cet intérêt que je ne puis exposer ici en détail.
Il se trouve que l'on parvient par la recherche philosophique à la conclusion que nul développement philosophique contemporain ne peut s'exempter de cette histoire que nous avons connue, non seulement parce que la philosophie et donc la science, le droit et toutes les sphères de l'activité de l'homme actuel reposent sur les acquis de la pensée médiévale comme héritage, mais aussi parce que les concepts qui ont aujourd'hui cours dans de nombreux aspects de l'existence, un grand nombre d'entre eux sont les mêmes que ceux de l'époque médiévale. Voilà pourquoi, sur le plan théorique, cette recherche nous intéresse, car elle est au fondement de la pensée contemporaine, comme l'ont montré nombre d'historiens de la philosophie. Et bien entendu, l'économie est au premier chef concernée par ce problème. La philosophie médiévale est fondée sur le principe du questionnement philosophique et de l'emploi des autorités pour appuyer le fruit du raisonnement. Selon l'adage de saint Augustin repris par Anselme de Canterbury, « croire pour comprendre afin de comprendre pour croire ». Il faut redéfinir le sens du concept de croire, de foi, de façon à bien le comprendre. Il ne faut pas l'entendre ici comme l'adhésion irrationnelle à un contenu, mais comme l'appréhension, la saisie par la pensée d'une vérité qui dépasse la raison. La recherche philosophique s'appuie sur l'étude des autorités, c'est-à-dire celle des philosophes, celle des pères de l'Église, celle des Écritures. C'est cette pensée qui a permis à la civilisation chrétienne de produire les œuvres les plus durables et parmi les plus remarquables. En commençant par les cathédrales, il y en a une ici à Poitiers qui est très belle, et nos églises, en passant par le droit, la littérature, les chansons de gestes, l'amour courtois, les romans de chevalerie, et la préservation du savoir antique sur lequel nous vivons encore aujourd'hui, le développement de la musique et un nombre infini de chefs-d'œuvre civilisateurs de tous ordres. Les principes issus de l'union de la pensée philosophique et de l'étude de la théologique ont donc permis l'émergence d'une civilisation très brillante. La pensée médiévale est d'une profondeur et d'une richesse bien supérieure à celle de notre époque, aussi bien par la finesse de ses distinctions que par la profondeur de ses recherches. L'acquisition d'un langage commun et sur cette base le maintien pendant plusieurs siècles de débats philosophiques de plus en plus techniques ont produit sur plusieurs siècles le corpus philosophique le plus cohérent, le plus profond, le plus vaste, puisque toute la scolastique et le commentaire perpétuel est toujours plus fin des acquis de cette tradition. Ce qui fait que sur cette base, on ne refait pas à chaque génération ce que la génération précédente a fait, et ce qui permet un progrès intellectuel. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque chaque philosophe ou chaque penseur qui entre en scène remet en doute les acquis de ses prédécesseurs. Cette pensée, bien qu'elle ne soit pas moderne, pourrait bien permettre à l'époque contemporaine de sortir de nombreuses impasses, par exemple sur le plan sociétal, à abandonner l'idée de l'opposition entre du syndicat et du patronat et de la lutte des classes selon le schéma désuet de certaines pensées du XIXe siècle, et de revenir au cadre des corporations médiévales de métier, où les relations entre les membres n'étaient pas vécues comme dans la confrontation, mais au contraire dans l'entraide. C'est un exemple. Ce n'est là qu'une simple piste de recherche sur un problème précis. Nombre de problèmes contemporains pourraient être repensés sur de nouvelles bases, plutôt que sur les fondements friables et stériles de la philosophie contemporaine et de la pensée moderne en général. Ce renouvellement doit amener à un changement de paradigme. Voilà, sur un plan intermédiaire, plusieurs des motifs qui légitiment cette entreprise. Tout d'abord en recréant les conditions d'un langage commun et de permettre de recréer une unité dans la pensée contemporaine. Et de sortir de ce dont l'un des intervenants parlait, de sortir des cloisonnements, des silos, selon son expression. En quoi consiste précisément la méthode de pensée philosophique médiévale ? À noter que cette méthode fut appliquée aussi au droit et à la médecine. Le Moyen-Âge use surtout de la méthode du commentaire, car les médiévaux ont pour principe l'humilité lorsqu'ils raisonnent et n'imaginent pas être plus sages que ceux qui les ont précédés. La méthode en question, c'est la lectio, c'est-à-dire la lecture en latin. Et c'est un commentaire de texte selon plusieurs méthodes plus ou moins approfondies. La méthode la moins approfondie est la lectio cursiva. Il s'agit d'une lecture linéaire où on lit le texte et on en donne le sens immédiat. Il y a une seconde méthode de la lectio, qui est la lectio ordinaria, où l'on pose des questions, puis on apporte des objections et des réponses aux objections. Les lectiones sont l'œuvre préparatoire à la disputatio. La disputatio est un débat philosophique très technique sur des sujets philosophiques et théologiques, mais aussi de droit et en médecine, selon les règles de la dialectique. Ce débat est défini par les maîtres régents, c'est-à-dire des professeurs éprouvés au cours des années de débats et de recherches philosophiques. Les enseignants ainsi usent des disputationes pour évaluer les connaissances des étudiants. Dans la disputation, un étudiant joue le rôle d'opponens et lui fait face le respondens, qui lui fait des objections. Après un nombre d'échanges d'arguments, lorsque le maître pense que l'on a épuisé les possibilités de la querelle ou que l'exercice est suffisant, le maître conclut la disputatio en fournissant les réponses aux objections de chaque étudiant, en tranchant en faveur de l'un ou de l'autre, ou d'aucun d'eux. Cet exercice n'est pas un pur exercice intellectuel, mais il s'agit en outre d'une pratique spirituelle où l'on doit exercer certaines vertus telles que l'humilité à l'égard des autorités, la patience à l'égard des opinions contraires, au contraire aux siennes, que l'on doit écouter et réfuter. La maîtrise de soi, il ne saurait être question de s'emporter lors d'un débat, et enfin, la charité en ne postulant pas la mauvaise foi chez son adversaire. Pour répondre à la question posée tout d'abord sur le plan général, nous dirons que la philosophie est toujours le terreau sur lequel s'élaborent les théories scientifiques qui se constituent les modèles politiques, les principes de l'organisation sociale et même le fonctionnement de l'économie en dépendent largement. Les représentations et la perception de ces représentations sont un élément fondamental de ce qui constitue l'économie d'une époque. Le renouvellement de la pensée philosophique est le gage d'un renouveau plus large qui se répand dans toute la sphère sociale. De façon plus spécifique et pratique, dans le cadre de notre cercle philosophique, nous faisons des lectios et des disputatios pour développer la spéculation philosophique. Nous nous proposons de mieux faire connaître notamment un penseur particulier qui a été oublié et dédaigné par la pensée philosophique, qui est un penseur iranien, un grand métaphysicien d'une grande importance et qui joue à l'heure actuelle dans la pensée iranienne, présente un rôle actif, puisque celui qui a fait la révolution iranienne connaissait cet auteur et était une sorte de spécialiste de cet auteur. Donc les Iraniens aujourd'hui pensent selon des catégories médiévales. Et si l'on veut comprendre et discuter avec les Iraniens, il faut comprendre leur mentalité et non pas imaginer leur appliquer ou leur plaquer sur eux des catégories qui ne sont pas les leurs. Or, il se trouve que les relations avec l'Iran se sont renouvelées récemment et pour dialoguer avec cette nation, cette ancienne civilisation, il est utile de comprendre leur mentalité. La philosophie en Iran est une philosophie de type médiéval au sens philosophique du terme. Aussi permettre le dialogue des différentes doctrines philosophiques, celles jusqu'ici presque ignorées du grand philosophe iranien avec celles des auteurs scolastiques, permettrait un renouvellement fructueux pour la spéculation philosophique, mais aussi pourrait comporter un intérêt immédiat et plus pratique dans les relations commerciales et les relations d'entreprise. La dispute philosophique avec des pensées extra-européennes pourrait s'avérer extrêmement féconde et, sans tomber dans le syncrétisme stérile, pourrait amener à repenser certains problèmes théoriques sur de nouvelles bases et par là même, par voie de conséquence, inspirer des solutions pratiques nouvelles à des problèmes actuels. Enfin, l'étude de la philosophie pour tout homme permet d'ouvrir son esprit à une perception plus profonde et plus vaste de la réalité. Elle ouvre l'esprit de l'homme et elle lui donne des armes pour affronter les difficultés qu'il rencontre avec sérénité. Elle lui permet de conserver l'équilibre nécessaire à sa vie dans le monde. Voilà. Si j'ai encore le temps, est-ce que je peux passer à la lecture ? Donc, la lecture que je fais à présent est un petit échantillon de ce que l'on fait lors des véritables lectures, lectionnesses, qui durent entre une ou deux heures, cela dépend, et qui sont destinées à un public de philosophes. Aussi, j'ai adapté cet exercice scolastique aux circonstances. Je vais mêler deux méthodes de la lecture, donc la lecture cursiva et la lecture ordinaria.
Donc, vous avez le texte devant vous. Aristote, après avoir démontré au chapitre 5 de l'éthique à Nicomaque l'existence de différentes formes de justice, a distingué la justice distributive de la justice corrective. Il définit la justice au chapitre 5, paragraphe 6, ainsi, citation, « Le juste est égal, et c'est là, sans autre raisonnement, une opinion unanime. Et puisque l'égal est moyen, le juste sera un certain moyen. Or, l'égal suppose au moins deux termes. Il s'ensuit nécessairement non seulement que le juste est à la fois moyen, égal, et aussi relatif. » Fin de citation. Dans le texte, il continue, mais j'ai coupé la citation. Ceci signifie que la justice est, pour Aristote, un moyen terme, comme toutes les vertus, entre deux extrêmes. Aristote, donc au chapitre 5, au paragraphe 10, c'est le texte que vous avez devant vous, traite de la justice politique dans ce texte, et non de la justice en soi. Pourquoi Aristote distingue-t-il deux types de justice pour la vie de la cité ? La justice, c'est une des questions auxquelles nous essaierons de répondre. La justice, c'est ce qui permet au sujet de la cité de maintenir la concorde et l'harmonie. C'est donc une vertu civique, politique, fondamentale. La justice fondée sur la volonté des hommes est sujette à variation, au contraire de la justice naturelle, qui est en principe invariable, quoique Aristote va nuancer la position. Mais Aristote s'applique dans ce texte à parler de la justice politique, mais il est bien évident que cette justice politique doit se fonder sur un principe métaphysique. Mais nous allons le voir un peu plus tard. Donc voici le texte. La justice politique elle-même est de deux espèces. L'une naturelle et l'autre légale. Et naturelle, celle qui a partout la même force et ne dépend pas de telle ou telle opinion. Légale, celle qui à l'origine peut être indifféremment ceci ou cela, mais qui, une fois établie, s'impose. Par exemple, que la rançon d'un prisonnier est d'une mine, ou qu'on sacrifie une chèvre, non deux moutons, et en outre, toutes les dispositions législatives portant sur les cas particuliers, comme par exemple le sacrifice en l'honneur de Brasidas, et les prescriptions prises sous forme de décret. Il est donc clair pour Aristote qu'il existe une justice qui transcende les contingences, c'est la justice dite naturelle qu'on appelle plus communément depuis le droit naturel. Ici, il donne des exemples de décrets qui ne possèdent en eux-mêmes nulle raison de leur contenu lié à la nature. Et ça, c'est ce que l'on appelle depuis le droit positif. Il rapporte que certains philosophes refusent l'idée que les lois du droit positif soient assimilables à la justice naturelle, précisément pour ce motif que les lois humaines varient avec le temps et l'espace, ce qui ne saurait être le cas si ces mêmes lois étaient d'origine naturelle. Car dès lors, elles seraient toutes tout comme le feu, les mêmes en Grèce, aussi bien qu'en Perse. Tout comme les réalités physiques qui suivent les lois physiques, constitutives du réel, la justice naturelle ou droit naturel suit des lois immuables. Donc les lois physiques et les lois naturelles, et la justice naturelle sont similaires, analogues. Ce droit non seulement ne serait donc pas variable selon le lieu et le temps, mais aussi il aurait toujours la même force, c'est ce que dit Aristote, et il ne pourrait exister des lois qui tombent en désuétude, tout comme le feu en Perse n'est pas moins brûlant que le feu en Grèce. Le prix du paiement pour libérer un prisonnier ou le choix de sacrifier aux dieux une chèvre plutôt que deux moutons sont des décisions arbitraires qui relèvent donc du droit conventionnel, qui n'ont aucun fondement objectif dans la nature des choses et relèvent plutôt du consensus ou de la convention selon le régime en question, c'est-à-dire d'une décision purement humaine. Aristote poursuit ainsi, « Certains sont d'avis que toutes les prescriptions juridiques appartiennent à cette dernière catégorie parce que, disent-ils, ce qui est naturel est immuable et a partout la même force, comme c'est le cas pour le feu, qui brûle également ici et en Perse, tandis que le droit est visiblement sujet à variation. Or, si la justice est immuable, elle doit nécessairement être de nature divine. » Cette justice immuable ne peut être autre que celle de Dieu, comme le dit le psalmiste, splendeur et majesté, son ouvrage, sa justice demeure pour toujours. C'est le psaume 110, verset 3. Ceci signifie que le modèle de la justice des hommes est celle de Dieu, du principe immuable de toute justice. Il va de soi que la justice dite légale doit se conformer à la justice naturelle. Donc, si la justice divine fonde la justice naturelle, la justice légale doit se fonder sur la justice naturelle et sur la justice divine.
Donc chacun des degrés de justice se modèle sur celui qui est supérieur. Aristote récuse l'hypothèse que le droit positif se suffise à lui-même, puisqu'il affirme que le droit n'est pas par essence variable, donc s'il n'est pas essentiellement variable, c'est qu'il peut être stable, c'est-à-dire fondé non sur l'opinion, mais sur l'étude des principes immuables, donc sur les principes qui relèvent de la science métaphysique. Mais, donc, citation, on continue sur le texte, mais dire que le droit est essentiellement variable n'est pas exact d'une façon absolue, mais seulement en un sens déterminé. Certes, chez les dieux, pareille assertion n'est peut-être pas vraie du tout, dans notre monde du moins, bien qu'il existe aussi une certaine justice naturelle, tout dans ce domaine est cependant passible du changement. Néanmoins, on peut distinguer ce qui est naturel de ce qui n'est pas naturel. Ceci signifie que pour Aristote, la justice naturelle n'est pas dans un ciel idéal comme chez Platon, auquel les hommes n'auraient pas accès. Cette justice naturelle que l'on peut nommer aussi droit naturel n'est pas uniquement réservée au domaine divin, c'est-à-dire à l'éternité divine, mais est accessible à la raison humaine. La justice naturelle relève de la connaissance philosophique puisqu'elle est universelle, c'est-à-dire étant donné qu'elle est immuable. Ce qui est immuable s'étend sur tous les temps, elle n'est pas particulière à un temps, et donc si elle n'est pas particulière à un temps, elle est donc universelle. Et ce qui est universel, selon Aristote dans sa métaphysique, elle est donc connaissable, puisque n'est connaissable que ce qui est universel. Donc sans être hors d'atteinte et étant universel, elle est connaissable, puisque seul est connaissable l'universel selon Aristote. La justice naturelle des hommes, bien que n'étant pas parfaite, existe dans le monde sublunaire. Donc ça c'est lorsqu'il dit « n'est peut-être pas ». Pas vrai, dans notre monde, cela signifie dans le monde sublunaire. Selon Aristote, le monde se divise en deux parties. Un commentaire là-dessus, je ne l'ai pas noté, mais je le dis ici. Il ne faut pas juger Aristote sur la question du monde sublunaire ou supralunaire en fonction des catégories de la cosmologie moderne, dans la mesure où il est parfaitement philosophiquement valable de considérer que le monde supralunaire peut s'étendre au-delà des limites du cosmos connues, même dans la mesure où on l'observe à des milliards d'années de distance. Philosophiquement, ce n'est pas un problème. La justice naturelle des hommes, bien que n'étant pas parfaite, existe dans le monde sublunaire, qui lui est soumis au changement, contrairement au monde supralunaire dont les mouvements sont parfaits. Voici ce que dit Aristote dans la suite du texte. « Et parmi les choses qui ont la possibilité d'être autrement qu'elles ne sont, il est facile de voir quelles sortes de choses sont naturelles et quelles sont celles qui ne le sont pas, mais reposent sur la loi et la convention, tout en étant les unes et les autres soumises au changement. » Aristote signifie que l'on peut distinguer dans le corpus des lois d'une cité celles qui relèvent de la convention de celles qui relèvent de la nature, mais qu'en outre, parmi les lois naturelles, certaines sont susceptibles de variations, car leur permanence n'est pas absolue, étant donné car elles ont un degré de muabilité. Cela dépend, par exemple, de l'état des mœurs, par exemple dans le cas du type de sujétion auquel les hommes sont soumis dans la cité. Cela relève de la nature et non de la convention. Cependant, cela est sujet à changement, ce qui explique les changements de régime politique, par exemple, comme le confirmera la suite du texte. Il prend une comparaison pratique pour illustrer son propos par l'apprentissage, donc par l'acquisition d'une connaissance, c'est-à-dire par l'acquisition d'une habitude, lorsqu'il donne l'exemple de l'homme qui peut devenir ambidextre. Par l'apprentissage, donc par l'acquisition d'une connaissance, par la pratique et l'acquisition d'une habitude, ceci est dû au fait que dans le monde des hommes, toute réalité est sujette au changement, soit par diminution de sa substance, soit par la corruption, soit par le perfectionnement, c'est-à-dire l'actualisation de la plénitude de son essence. Donc il ne s'agit pas d'acquérir, de changer d'essence, il s'agit d'atteindre une perfection de son essence. Ça, c'est la deuxième méthode. D'accord. Je vais conclure afin de ne pas vous assommer. Je dirais ceci. La justice étant relative selon la définition, elle est un rapport de proportion, tout en étant un moyen terme entre deux extrêmes comme toute vertu. Elle possède donc une hiérarchie de degrés dont les plus élevés, la justice divine, dont le plus élevé est la justice divine, qui est le modèle de la justice naturelle, et elle-même est le modèle de la justice conventionnelle. Voilà, si vous avez des questions.
Merci. Peut-être expliquer lectio, disputation, et ce que vous voulez faire rapidement avec l'Institut de pensée médiévale.
Donc, le but de... Pour l'instant, je n'ai pas d'institut, mais dans le cadre de l'association, le but, c'est de faire renaître la pensée médiévale en utilisant les méthodes qu'ils utilisaient. Parce que cette méthode a produit pendant des siècles la pensée la plus brillante que nous ayons jamais connue. Pour ceux qui étudient la philosophie, il est facile de voir que la pensée médiévale est méprisée à tort. Et donc, c'est pour ça que je souhaite faire renaître la pensée médiévale par la lectio et la disputatio. La disputatio, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la confrontation de thèses philosophiques sur la base d'opposition d'arguments et donc en utilisant les méthodes de la dialectique. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais...
Non, mais je crois que ça méritait d'être expliqué, quel est le projet derrière.
Oui, je voudrais vous poser une question.
Je vous écoute.
Parce que quand je vous écoutais, je me disais, c'est vrai que dans certains débats, je pense à la télévision entre hommes politiques, je pense dans les entreprises quand on négocie certaines choses. Est-ce que vous pensez que cette méthodologie pourrait être appliquée et comment pourrait-on faire pour l'enseigner aux participants ?
Aux participants ?
Ben oui.
Aux participants lesquels ?
Ben les acteurs. Il faudrait l'enseigner dans le monde syndical, il faudrait l'enseigner dans le monde politique, pour que les gens comprenant la règle puissent s'y soumettre. Et ensuite, il faudrait savoir. Alors, ça pose aussi le rôle du journaliste, qui devrait être a priori celui qui peut intervenir et dire ah non, là, ça va plus.
Bah, si vous voulez, le problème, c'est que le journaliste et l'homme politique font plutôt appel à ce qu'on appelle la rhétorique. C'est-à-dire, ils font usage d'arguments, mais non pas d'arguments démonstratifs, mais d'arguments convaincants. Il s'agit pour eux de vous convaincre et non pas de démontrer scientifiquement une proposition. Et donc, les politiques ne sont pas susceptibles, quelles que soient les circonstances, de jamais accéder à cette science, même au temps où la dialectique était reine au Royaume de France.
Ça m'a fait revenir une cinquantaine, une soixantaine d'années en arrière. Et il me semblait que quand on nous apprenait un peu la philosophie à l'école à cette époque-là, c'était le développement d'un texte ou l'explication. On faisait thèse, antithèse, synthèse.
C'est ça.
Est-ce que ça revient à
ça ? C'est la base de la... cette méthode-là, c'est la méthode de la lectio ordinaria, un peu simplifiée, mais c'est la même méthode. La thèse, antithèse, synthèse, c'est la lectio ordinaria.
D'autres questions ? Sinon, merci. Et puis bon courage pour votre projet d'institut, puisqu'on est dans l'entrepreneuriat. Donc
merci.
Là, il y a un projet. Voilà. J'appelle les trois autres intervenants, à savoir Adrien Gosse, Vincent Carrier et puis Guillaume Pulic. Pour qu'il nous parle. Alors, on va commencer par Adrien et puis ensuite Vincent. Et c'est Guillaume qui terminera. Bon, je vous laisse le soin de vous présenter et puis d'argumenter votre position.
Merci. Donc, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Donc, je m'appelle Adrien Grosse, j'ai 28 ans. Je suis éducateur sportif, j'ai également un master de management du sport et je travaille actuellement dans un club de tennis près de Niort. Donc mon intervention va porter donc sur la place des jeunes dans les associations, plus spécifiquement dans le domaine sportif, donc qui est mon domaine de prédilection, et donc l'accession des jeunes à des postes à responsabilité dans le cadre associatif. Donc dans un premier temps, je vais rapidement rappeler la composition et le fonctionnement d'une association. Ensuite, donc justement, la deuxième partie qui va être donc, la problématique, le renouvellement des personnes dirigeantes. Et enfin, je terminerai par une petite vidéo en guise de conclusion. Donc, une association, donc, les personnes qui représentent les associations, donc il y a les adhérents, donc qui sont les personnes physiques, donc qui adhèrent à l'association par une cotisation. Donc, en général, donc, c'est par l'inscription en début d'année. Ensuite, donc, il y a les principaux organes dirigeants, donc à savoir l'Assemblée générale, donc qui regroupe une fois par an donc, l'ensemble des adhérents qui sont conviés à cette assemblée. Donc c'est là où on vote les décisions, où les personnes présentent les bilans des actions qui ont été entreprises durant l'année. Et donc à l'occasion de cette assemblée générale, donc on élit les personnes qui vont représenter le conseil d'administration ou le comité directeur, donc à savoir donc le groupe des bénévoles. Et ensuite, cette même assemblée va ensuite donc élire en général président-présidente, secrétaire, trésorier, trésorière, et également les personnes donc, qui seront dans certaines commissions. Donc, c'est-à-dire là, on procède à la répartition et rôle de chacun. Donc ça peut être par exemple des personnes qui seront missionnées sur la commission animation, communication, développement, féminine. Tout dépend de la nature de l'association et de son projet. Donc justement, le projet associatif, donc en général, les associations vivent sur un projet pédagogique. Ça peut être un projet pédagogique, éducatif, social, culturel, sportif. Donc, il regroupe donc sur des valeurs communes. Donc, qui engage l'implication de chacun. Donc, les dirigeants, les bénévoles, les salariés. Donc, pour faire vivre mieux l'association, qu'ils soient vraiment actifs sur l'ensemble des actions qu'ils réalisent au cours de l'année. Donc ces actions, ça peut être par exemple des animations, des compétitions, des événements. Après, ça peut être aussi dans le cadre de missions spécifiques. Par exemple, chercher à développer l'école du sport, ou ça peut être par exemple essayer d'augmenter le nombre d'adhérents par exemple, le nombre d'adhérents masculins des plus de 35 ans, par exemple, pour essayer de fidéliser les adhérents. Donc, bien entendu, bon, participer à la gestion de la structure. Également, on va le voir après, se former à des fonctions spécifiques, donc pour essayer de développer ses compétences. Donc, ce qui nous amène au grand 2, donc le renouvellement des personnes dirigeantes. Donc le plus souvent dans les associations, les personnes qui dirigent les associations sont des hommes, souvent retraités, dans les conseils d'administration et dans les bureaux. Donc c'est des personnes qui sont généralement issues des catégories moyennes supérieures, donc entre 40 et 60 ans. Et donc pourquoi ils exercent ces fonctions? Donc c'est du fait de leur vécu. Donc, c'est des personnes qui ont plus souvent côtoyé le monde associatif et donc qui souhaitent être présents dans les bureaux pour représenter leur sport, leur domaine de prédilection. Donc, je vous ai présenté un graphique justement pour avoir une idée. Donc, on peut voir que les personnes sont bien sûr les présidents, membres du bureau, donc la direction. Et il y a également donc, les membres des associations, les bénévoles et les salariés, car au sein d'une association, on peut cumuler plusieurs postes. Voilà, si le président, s'il est bénévole, on peut très bien être président bénévole. Et c'est aussi un peu moins méconnu, je le dirai à la fin, on peut également être président salarié d'une association. Donc les raisons du manque de renouvellement des dirigeants associatifs, donc j'ai exposé les principales raisons qui expliquent qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes au sein des instances de direction. Donc déjà, c'est par manque de disponibilité, puisque être investi pleinement dans une association, ça oblige donc à être vraiment disponible. C'est équivalent à d'un tiers ou d'un demi temps plein. Donc ce qui peut expliquer que les personnes qui sont retraitées, du coup, ça leur fait, entre guillemets, un cumul d'activités. Ça explique donc avec des problèmes d'horaire et de calendrier, qui sont souvent un peu compatibles, puisque dans une association, il faut aussi concilier vie familiale, vie professionnelle. Donc c'est pas non plus toujours facile. Et donc le plus souvent, les jeunes, ils s'investissent pas beaucoup dans les associations, ils sont de simples consommateurs. Donc ce qui explique qu'il n'y en ait pas beaucoup, c'est aussi être investi dans une association, donc ça oblige à avoir des responsabilités. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la société, donc il y a beaucoup de charges administratives, il y a beaucoup de lourdeurs administratives. Donc des fois, c'est aussi peut-être un frein à ce qu'on fait, qu'on puisse vraiment s'engager. On assiste également à des phénomènes de rétention de pouvoir. Donc, c'est-à-dire les personnes qui sont dans les organes de direction, plus souvent, elles restent longtemps à leur poste. Et donc du coup, il n'y a pas la relève d'assurer. Et d'autant plus que dans le cadre associatif, donc il y a un fort militantisme. Donc le plus souvent, en fait, les recrutements, enfin les changements de poste, et puis d'ailleurs également les recrutements, se font en interne. Parfois, c'est mal perçu que des personnes extérieures de l'association arrivent là, entre guillemets, débarquant, pour prendre un peu la place des autres. Ce qui explique qu'il n'y a pas plus de jeunes. Donc il y a une insuffisance de formation et de délégation. Donc, comme je viens de le dire en interne, les jeunes ils sont simples consommateurs. Et donc c'est vrai que souvent les personnes, l'association, ils trouvent que qu'elle vit bien comme ça et puis que ça suffit, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Pourtant, le jour où ils font changer de président ou s'il y a un président pour des raisons relationnelles qui démissionne, parfois les associations elles se retrouvent un peu dans la panade. Donc du coup, comme je l'ai dit, je trouve que moi, à titre personnel, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de réflexion sur le fait de donner envie aux jeunes de plus s'investir. D'où la réflexion, réfléchir à la place des jeunes dans l'association, à l'identification de projets spécifiques à leur confier, notamment pour assurer les transmissions, pour passer le relais, comme on l'a un peu évoqué justement tout à l'heure, avec les parrains ou sous la forme de tutorat. Ça pourrait être bien, par exemple, un président qui dans une association. Il voit qu'au sein de, on va dire par exemple, l'école de basket, qu'il y a un jeune qui est capitaine d'équipe, qui a plutôt une vingtaine d'années. Il pourrait se dire, pourquoi pas essayer de lui donner une mission spécifique. Ça permettrait déjà, pourquoi pas, qu'il connaisse mieux l'association et puis que lui-même, qu'il fasse également découvrir aux plus jeunes. Donc, d'un autre côté, faut aussi prendre la peine de le faire. Donc, souvent, on veut bien faire des choses concrètes, mais on hésite et puis on ne veut pas prendre de responsabilité. Donc, solution, pour dans le cadre vraiment spécifiquement des transmissions. Donc, je pense qu'il y a deux voies qui peuvent apparaître. Donc ça peut être par exemple dans le cadre la voie du bénévolat. Donc ça pourrait être par exemple déléguer les personnes qui sont au sein des conseils d'administration. Donc ça pourrait être par exemple déléguer une partie plus ou moins grande de leur mission, de ce qu'ils font au quotidien, donc aux jeunes. Donc ce qui permettrait d'une part de diminuer leurs contraintes de disponibilité au quotidien. Et donc ça permettrait d'amener les jeunes à se responsabiliser, de développer leurs compétences, sachant que tout dépend de la nature de l'association, mais qu'il y a quand même, par exemple, un jeune qui est juste bénévole dans une association, juste membre, ce qu'il fait dans l'association, après, ça peut être également transposable au monde de l'entreprise. Par exemple, dans le cadre d'événements importants, s'il pourrait être, par exemple, faire des missions liées à la logistique ou à de la communication, ce qu'il pourrait très bien faire également au sein des entreprises. Donc, la voie du salariat, donc ça, c'est dans le cadre principalement des grosses structures. Dans le cadre de formation, par exemple, un jeune qui pourrait à la fois devenir salarié de son association, par exemple, faire rester sur le basket. S'il est passionné de basket, et puis en même temps, s'il peut concilier son activité basket dans le cadre de ses études, par exemple, on va le voir après dans la vidéo, par exemple, l'école de commerce, un jeune qui investit dans le basket, qui fait une école de commerce. Après, voilà, s'il peut concilier dans le cadre d'une formation au sein de l'association, ça pourra après être, il pourrait être amené, par exemple, être dans l'association, être chargé de mission ou chargé de développement ou encore responsable événementiel. Ce qui est un peu dommage, c'est que ce n'est pas non plus la priorité des associations, mais qui sont parfois débordées par leurs activités quotidiennes. Et elles-mêmes qui parfois ont peut-être une méconnaissance des structures qui pourraient justement aider à la création de postes. Donc les principales structures dans le cadre sportif, donc il y a le CNDS, donc le Centre National de Développement du Sport, il y a également les groupements d'employeurs et les CREFS, donc là c'est les formations sportives dans le cadre des diplômes d'animateurs multisports et également de diplômés d'État. Donc, à savoir, comme je disais tout à l'heure, on peut être président d'une association. Donc, à savoir, c'est peut-être une loi qui est un peu méconnue, donc je tenais à vous en parler. Donc, c'est la loi de finances de 2002 qui autorise la rémunération d'un ou plusieurs dirigeants au-delà des trois quarts du SMIC. Et donc, il y a également les personnes qui sont au sein des conseils d'administration qui peuvent être rémunérées. Donc, le nombre de dirigeants rémunérés est limité en fonction du montant et de la nature des ressources de l'association. Donc on va voir le cas d'un jeune qui a concilié vie bénévole dans sa structure et également avec ses études pour devenir salarié de l'association.
Salarié d'un comité départemental, d'une ligue ou d'un club d'envergure, l'agent de développement conçoit, coordonne et accompagne les projets de son employeur.
J'ai également une mission de communication, interne ou externe. Rôle éducatif et social. Dans mon cas, j'ai également un point d'encadrement avec les bénévoles sur terrain, avec les enfants, donc vraiment le côté terrain, football. C'est une clé dans ce métier, c'est la polyvalence des missions, le côté autonomie et la responsabilité des différentes tâches, surtout les aspects du club avec les dirigeants. Les qualités d'un bon agent de développement, c'est d'avoir de la rigueur et le diplomate, entretenir de bonnes relations avec tout le monde. C'est ensuite une grande disponibilité, notamment soir et le week-end, pour des réunions avec les dirigeants ou des manifestations sportives. Enfin, il faut rester dynamique sur l'ensemble des projets du club. Mon parcours pour arriver à ce poste, la première chose, c'est d'abord de jouer au football. En fait, à Colombage, je suis allé à un cursus universitaire où j'ai terminé avec un double master, un master école commerce et un autre management du sport. Au cours de mes études, je Je me suis intéressé à la vie associative de mon club. J'ai ensuite été recruté comme chargé de développement. Pour aller plus loin et diversifier mes missions, j'ai passé mon brevet d'état football. C'est un métier de passion dans lequel je me panique complètement.
Donc là, voilà, on a pu voir le cas vraiment typique d'un jeune donc, voilà, qui a pu prendre des responsabilités au sein de la structure où il était d'une part d'abord bénévole sur le terrain, sur l'animation. Et donc après, il est passé de l'animation donc, au développement de la structure.
Merci Adrien.
J'ai pas presque fini.
Ah bon, allons-y.
Non, j'en veux juste dire que c'est vraiment important de s'investir voilà, dans le monde associatif. Justement, comme tout à l'heure, comme vous l'évoquez, par exemple, pour le rugby, le rôle de capitaine. Voilà, c'est sûr que c'est important, il faut y penser à mettre sur ses CV, de mettre que, voilà, qu'on a été capitaine d'équipe, ou encore, par exemple, au collège ou au lycée, qu'on a été délégué de classe, puisque voilà, ça prouve qu'on peut voilà, essayer après, au sein du monde de l'entreprise, d'exercer ses compétences et savoirs pour leur coordination, pour le management. Donc, je terminerai par ces trois petites phrases. Prendre des responsabilités, c'est s'engager, choisir, décider. Et cela fait souvent peur, au point que l'on préfère se laisser porter par les autres ou remettre à demain. Pourtant, ce sont bien les responsabilités, grandes ou petites, qui nous font avancer dans la vie. Merci pour votre compréhension.
Merci Adrien, merci. Est-ce qu'il y a des questions précises sur l'intervention ? Sinon, vous restez là. Et on continue avec Vincent Carrier. S'il n'y a pas de questions précises sur cet aspect, on débattra de façon générale. Vous restez à l'estrade.
Vous voulez prendre ma place ?
C'est que je vais...
Ah d'accord. Moi je vais quitter. Moi je vais...
Bon, bah alors moi, je vais essayer de faire bien court. Si je suis là, c'est juste pour vous raconter une petite histoire, pour illustrer le fait que c'est une petite aventure d'innovation dans un territoire très, très rural où, d'habitude, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Donc, c'est dans le sud de Vienne. Alors, je ne vais pas tout vous passer de ce que j'ai mis là, parce que sinon, ça prendrait du temps. Et puis, je pense que... voilà. Je vais juste essayer de raconter cette belle petite histoire. Donc c'est pour le camper. Là, j'ai trouvé cette jolie petite carte. Là, c'était l'IAAT là, qui l'avait fait, justement, je crois.
Je confirme.
Voilà, c'est ça. Alors, vous voyez, nous, on est là, en fait. Vous savez, c'est blanc. C'est pas bon signe. Donc, c'est le sud de Vienne. On est loin on est un peu loin de tout. C'est très rural. Il n'y a pas beaucoup de dynamisme économique. Il y a beaucoup de maisons à vendre et pas cher. Donc, si vous en cherchez, vous pouvez venir. Vraiment pas cher pour le coup, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de perspectives d'emploi. Et il y a un lycée là, un petit lycée un peu perdu pour le coup. Pourtant, il est très très bien, très très chouette. Et, voilà. Et donc, il y a eu une expérience, en fait, c'est un peu le hasard de la vie qui a fait ça. On vit quelque chose d'assez sympathique et peut-être un peu atypique pour le monde rural. Voilà, donc en fait il se trouve que moi je suis un ancien chercheur, j'ai passé des années au CNRS et puis on a l'habitude en France, vous savez, on est très compartimenté, on a l'habitude de penser que la recherche elle peut se faire qu'au CNRS ou dans les facs, en gros que dans les grandes villes quoi. Et on se dit il n'y a pas de raison qu'on puisse faire de la recherche dans le sud de Vienne. Là, on peut montrer qu'en fait, si c'est possible. Alors, bon, c'était pas tout à fait volontaire de ma part, mais bon, c'est un peu le hasard. En fait, il y avait des élèves au lycée avec lesquels j'ai eu envie de monter un club scientifique, comme ça se fait dans beaucoup de lycées, pour faire un petit peu de sciences hors temps scolaire. Et puis pour participer à des concours, il y a plein de concours qui existent, qui sont fort sympathiques. Voilà. Et en fait, pour l'histoire, c'est la fille qui est la Blandine, qui est maintenant en médecine, qui dit ah ouais, mais moi, je veux bien un sujet scientifique, ça m'intéresse beaucoup, mais par contre, je veux que ce soit en rapport avec la médecine. Alors là, je suis rentré chez moi, j'avais plein d'idées, de petites choses à faire, sympa, mais alors la médecine, j'y ai passé du temps et. Je suis revenu la voir quelques jours après, j'ai dit, écoute, j'ai plein d'idées, mais alors en relation avec la médecine, je suis un peu coincé. Alors j'ai bien un truc sous le coude, mais en fait, c'est pas un projet de lycée. C'est un projet de recherche que j'ai en tête depuis quelques années et qui j'ai pas le temps de le faire, donc j'arrive pas à trouver le temps de le faire. Et je lui ai un peu expliqué, elle m'a dit oui, on y va. Je lui ai dit, mais c'est un peu un truc fou, quoi, parce que c'est des notions de mathématiques de très très haut niveau, c'est de l'informatique de très haut niveau, et puis c'est pas quelque chose qu'on va résoudre en une année, c'est pas possible, c'est vraiment un truc, c'est un projet de recherche, hein, ça dure sur plusieurs années. Et elle me dit d'accord, et puis en fait les autres qui nous ont rejoints, ils ont dit d'accord aussi. Alors on s'est lancé dans cette aventure-là sans trop savoir, enfin c'était vraiment un pari, quoi. Et donc juste pour vous expliquer juste en une diapositive le principe, c'est quand c'est à propos d'une maladie, en fait. Moi je connais une enfant qui a une dystrophie de la cornée, c'est-à-dire sa cornée elle a des taches blanches comme ça, c'est un peu comme une cataracte, mais sauf que la cataracte on peut changer de cristallin. Dans la cornée, on ne peut pas changer la cornée, en fait. On peut faire des greffes de cornée, mais ça ne tient pas très longtemps. Donc cette fille-là, elle est sûre, les ophtalmos du CHU là, de Poitiers nous garantissent que dans le meilleur des cas, 50 ans, elle est aveugle. Dans le pire, à 10 ans, elle sera aveugle. Et donc, en fait, l'idée, c'était de concevoir des lunettes, c'est-à-dire de ne pas toucher à son œil, en fait, lui laisser ses taches blanches, et dire, en fait, on peut peut-être arriver à la faire voir malgré ses taches blanches, en fait, concevoir des lunettes un peu comme celles que j'ai, qui, moi, compensent ma myopie, elle n'est pas trop forte, mais elle compense ma myopie, et bien là, en fait, compenser ces taches blanches, en fait, la diffusion. Et donc, créer des lunettes comme ça, actives. Et bon, ça, c'est quelque chose qui a jamais été fait, parce que c'est un problème qui ne se pose pas, en fait. C'est une maladie rare, hein, et ce problème tel quel ne se pose pas en physique. C'est ce qu'on appelle un problème inverse. La compensation de la diffusion se pose dans d'autres cas, mais pas dans ce cas-là. Et donc, en fait, ça a posé des problèmes théoriques déjà très complexes et expérimentaux. Et voilà, donc on a voulu essayer d'abord, parce que les ophtalmos du CHU de Poitiers, je me souviens, ils me disaient, mais c'est pas possible, ce que vous nous racontez, c'est pas possible. Si c'est vrai, ce que vous dites, c'est une véritable révolution colossale en ophtalmologie. Et donc, j'ai essayé de les convaincre que c'était peut-être possible. Et puis, donc on a essayé de faire ça. Et puis, là, c'est les résultats que les élèves ont eus. Et après, je vais quitter la science pour vous parler quand même du truc. Voilà, ça, c'est par exemple l'image que vous voyez. Ça, c'est des résultats expérimentaux. L'image que... Alors là, c'est pas avec un œil qu'on l'a fait, c'est avec une plaque de plexiglas qu'on a rayée. Derrière la plaque de plexiglas, si on la met devant cette image, en gros, vous voyez ça, c'est-à-dire ça simule ce que cette personne avec des taches blanches verrait. Et grâce, en fait, à notre dispositif, ça, c'est des résultats expérimentaux, même si ce n'est pas des lunettes, en fait, elle arrive à voir ça, c'est-à-dire qu'on a une corrélation de 50% entre l'image qu'on arrive à faire et l'image de départ, alors que là, il n'y avait même pas 5%. Donc, il y a une vraie recouvrance, en fait, de l'information. Donc ça, c'est récent, hein, tout ça. Ça, on va le breveter, pour le coup. On va aussi écrire des articles scientifiques là-dessus, d'assez haut niveau, pour le coup, parce que c'est quand même quelque chose de très, très, très innovant. Et donc, pour dire que vraiment, on peut faire de la recherche de très haut niveau là-dessus, ça a été vraiment une expérience, comme à chaque fois qu'on fait de la pédagogie de projet, hein, comme entreprendre pour apprendre, c'est vraiment dans le même esprit qu'entreprendre pour apprendre, hein, c'est vraiment la même chose, sauf que là c'est de la recherche, on l'a pas fait véritablement avec un but lucratif derrière, même si maintenant les élèves ont une réflexion sur le dépôt de brevets, tout ça,
quel investissement on y met, tout ça. Les élèves se sont investis énormément. C'est vraiment, ils travaillent. À toutes les vacances, on a bousculé le proviseur pour qu'il vienne nous ouvrir le lycée. Même parfois, moi, je ne venais pas. C'était les élèves qui appelaient le proviseur en disant faut vous nous... Là, on doit faire des expériences, ouvrez-nous le lycée. À toutes les vacances. Ils sont allés chercher des sponsors. On a plein de sponsors locaux. Ils ont réussi à obtenir des sponsors très, très enthousiastes. On a beaucoup de collaborations européennes. Le secteur de recherche de Essilor qui vient nous voir, là, ce mois-ci. Parce qu'ils sont très, très intéressés par ça, ils aimeraient pouvoir l'installer sur des lunettes. On a des collaborations académiques avec beaucoup de professeurs d'université en mathématiques, en traitement d'image, des choses comme ça. Et donc vraiment, les élèves, donc on participe à plein de concours, tout ça, les élèves, ils sont... Moi, j'ai des mails tous les soirs, même jusqu'à minuit, ils m'appellent, « Monsieur, on a des résultats extraordinaires. » Ils sont vraiment complètement accrochés à ça. Et c'est voilà, donc c'est possible de faire des choses comme ça, des superbes aventures avec trois fois rien. On est parti avec le lycée, nous a juste donné un petit local et zéro sou. Hein. Zéro. Tout ça, on l'a fait avec zéro. Et donc après, ils sont débrouillés pour aller démarcher des sponsors, convaincre, avoir 100 euros de ci, 100 euros de là. Et ils ont réussi à se faire prêter du matériel aussi. Il y a un laboratoire CNRS qui nous a prêté beaucoup de matériel. Mais tout ça, voilà, c'est vraiment en y allant. Et on peut faire vraiment de très belles choses comme ça. Et effectivement, bon, après, je ne vais pas faire de la grande théorie. C'est comme à chaque fois qu'on fait de la pédagogie de projet. Pour les élèves, moi, ce que je trouve intéressant, si je me dis qu'est-ce que ça leur a appris, ce projet. Ça leur a pas appris, pour moi, à être créatif ou être autonome, parce que ceux qui ont vraiment accroché, là, ces élèves-là, ils l'étaient déjà, en fait. Et là, depuis, j'en ai d'autres, parce que comme ce projet dure, maintenant, j'ai des nouveaux élèves qui sont montés. Il y en a qui sont pas créatifs et autonomes, et en fait, ils ont du mal à s'inscrire dans un projet, en fait, ceux-là. Et ceux-là, j'arrive pas à leur apprendre. J'arrive pas à leur apprendre à être créatif et autonome. Je suis démuni par rapport à ça. Donc en fait, il faut, enfin, il y a ceux qui sont créatifs et autonomes, ben voilà, ceux-là, ça prend. Et par contre, ceux-là, alors qu'est-ce qu'ils apprennent? Eh bien, ils sont stimulés, je trouve. En fait, ils apprennent, ils sont confrontés à, pour moi, entreprendre, c'est contourner des obstacles. Pour moi, c'est comme ça que je le définis, entreprendre. Et en fait, faire de la recherche, hein, c'est la même chose que quand on veut monter une entreprise ou quand on veut faire de la mise en scène ou de la chorégraphie. On passe son temps en fait, à contourner des obstacles divers et variés, multiples. Et donc, ils sont confrontés à ça, c'est-à-dire qu'il y a des obstacles. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas si on va y arriver. Là, on ne savait absolument pas. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'on arriverait à ça. On ne sait pas. Et on rencontre des obstacles, et soit on baisse les bras en se disant on n'y arrivera jamais. On a vraiment d'ailleurs des moments vraiment pendant des mois où on a le mouron. Et puis les élèves qui insistent. Et c'est la première fois en fait qu'ils ont vraiment des obstacles à confronter, auxquels ils sont confrontés, et ils savent pas ce qu'il y a derrière. Ils savent pas si ça va marcher. Ils savent pas s'ils vont pouvoir contourner l'obstacle. Et ils le font. Et ça marche. Et ça, c'est la première fois qu'ils le vivent de manière aussi forte, avec quelque chose d'aussi ambitieux. Et ça, vraiment, ça leur donne une appétence pour ça. Ces élèves-là, je pense qu'ils s'en souviendront toujours hein, de cette histoire-là. Et vraiment, ça, ils ont été confrontés à des gros obstacles. Et ils y sont allés. Ils ont continué. Et parfois, ils ont eu vraiment le moral là-bas, et ils y sont allés. Et ça, voilà, ils partent dans la vie avec ça. En se disant, ben moi je sais que quand je pars dans un projet, je peux être confronté à des obstacles qui me semblent énormes, et ben j'arrive à les contourner et arriver à faire quelque chose, des résultats extraordinaires. Les obstacles, c'est pas moi qui leur ai facilité hein, les obstacles. Très souvent, ils les ont contournés avant même que moi j'ai l'idée de comment les contourner. Donc voilà.
Merci beaucoup pour ce témoignage, positif comme on dit aujourd'hui. Écoutez, on prend peut-être le troisième intervenant, puis ensuite on ouvre le débat avec vous. Donc Guillaume Pulic.
Donc bonjour à toutes et à tous. Guillaume Pulic, je travaille pour une association qui s'appelle l'ADI. Avant de relier avec la thématique d'aujourd'hui, les jeunes, l'entrepreneuriat et la créativité, je vais avoir un petit moment d'explication et d'historique pour expliquer qui je suis, mais surtout pour quel organisme je travaille. Donc moi, je suis accompagnateur de jeunes qui veulent créer leur entreprise. Ça fait 5 ans que je fais ce métier pour l'association qui s'appelle l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Je fais ça sur Poitiers, sur Châtellerault. Donc l'ADI, c'est une association qui est née en 89, au départ sur l'impulsion du l'outil microcrédit. L'idée, c'était de reprendre un schéma économique qui existait dans les pays en voie de développement. 89, c'était l'année où le RMI se mettait en place en France. Donc l'idée, c'était de prendre un schéma économique qui avait des échos dans les pays en voie de développement et essayer de l'adapter à notre culture et à nos systèmes économiques. L'objectif de l'ADI, il est très clairement que les entrepreneurs que l'on finance, à terme, ils n'aient plus besoin de nous. Ils ont besoin d'un financement, ils vont voir une banque, et qu'ils soient autonomes au maximum. On s'est rendu compte que juste l'outil financier microcrédit, il n'était pas suffisant. Donc très vite, on s'est professionnalisé sur le registre de l'accompagnement des porteurs de projets. Donc on n'est pas des spécialistes de l'accompagnement, on est plutôt des généralistes. On va vraiment aller sur toutes les thématiques et toujours chercher l'information pour essayer à chaque fois d'apporter les meilleures réponses possibles qui soient pour nos entrepreneurs. On fait en sorte de toujours se remettre en question parce qu'on doit une qualité d'accompagnement à nos porteurs de projets. Et en 2007, il y a eu une réflexion autour de la jeunesse qui cherchait à entreprendre. Et il y avait un constat qui était fait, c'était qu'il n'y avait pas que l'accès au financement qui compliquait l'accès à l'entrepreneuriat. Il y avait le fait qu'on n'arrivait pas à se voir chef d'entreprise. On ne savait pas à quoi s'attendre, on pensait qu'on allait dans des complications ou dans ce genre d'éléments. Donc c'est là où est né le dispositif qui s'appelle CréaJeune, qui est un dispositif de formation d'une part. Donc on est sur une formation de 6 semaines, où on va former sur des grandes thématiques comme les thématiques commerciales, les thématiques de gestion, mais aussi du développement personnel, notamment tout ce qui est base de morale qui arrive forcément quand on travaille sur un projet. Et on va intégrer aussi beaucoup de tutorats pour vraiment faire travailler les porteurs de projets autour de leur projet. L'idée étant de toujours relier la théorie à la pratique. Le projet, il ne va pas avancer que entre nos murs, que pendant qu'on donne l'information. Il va avancer aussi quand les jeunes vont aller sur le terrain, quand ils vont voir leur clientèle potentielle, quand ils vont faire leur étude de marché et quand ils vont se confronter à ce genre d'expérience pour vraiment mesurer à quoi s'attendre. Donc, CréaJeune, ça existe depuis 5 ans. On accueille à peu près 70 jeunes par année, pour vous donner un ordre d'idée sur la Vienne. L'objectif que l'on se donne, c'est pas d'être une usine à création d'entreprise, c'est vraiment de donner les clés à des jeunes, de pouvoir mesurer quel est le potentiel de mon activité, quels sont les enjeux, quels sont les risques que je prends, mais qu'est-ce que je peux en retirer comme opportunité également. Et ensuite, je fais le choix de créer ou pas de créer, mais c'est des choix qui m'appartiennent et je suis acteur de mes choix. Donc pour arriver à cette dynamique, d'abord on intègre beaucoup de bienveillance au jour le jour. Nous-mêmes, on n'a pas la vérité absolue, même si ça fait un certain temps que je travaille dans la création d'entreprise. Et quand un jeune va me parler d'un projet, ça va être tout de suite l'amener à se renseigner, est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce qu'il y a un blocage de type réglementaire? Est-ce que peut y avoir un blocage de type financier? Parce que l'idée, c'est pas de faire travailler pendant 6 semaines et de vendre du rêve pour à la fin emmener le jeune contre un mur, mais déjà tout de suite l'amener dans un contexte de réalité, mais le mettre dans l'action. Et ensuite, on va recommander quelque chose, c'est qu'un accompagnement ne doit pas être unique. Certes, on va leur donner des conseils. Certes, on va leur donner des pistes ou on va leur donner notre point de vue. Mais on va leur conseiller d'aller voir aussi d'autres interlocuteurs de la création d'entreprise. On n'est pas tout seul. Et plutôt que de se marcher sur les pieds entre interlocuteurs de la création d'entreprise, on a vraiment un parti pris qui est de mettre en place une synergie avec toutes les autres institutions afin que nos porteurs de projets aient un maximum de points de vue et un maximum de renseignements. On fait en sorte de ne pas avoir de préjugés au jour le jour. Et aussi un point qui est important pour nous, on fait en sorte nous-mêmes de toujours nous renouveler pédagogiquement, de toujours être dans l'action et de ne pas rester sur des acquis. De toujours faire en sorte d'être créatif pour pouvoir faire profiter de cette créativité à nos porteurs de projets et toujours les emmener dans une dynamique et éviter et, on veut surtout éviter de les encourager en leur vendant du rêve et puis les amener à se planter. C'est absolument pas le but de la méthode. Mais par contre, même si à terme ils ne vont pas créer leur entreprise, le fait de suivre leur parcours pendant ces 6 semaines, ça va les amener dans une dynamique qui peut les ramener sur une reprise de confiance et vers un retour à l'emploi. On a des cas de figure, par exemple, sur des jeunes qui se sont rendus compte que l'investissement nécessaire pour démarrer le projet était plus important qu'ils ne le pensaient au démarrage. Donc, ils vont accepter de prendre un boulot alimentaire pendant une période pour se constituer un capital. Leur projet, il verra peut-être le jour dans 2 ans, dans 3 ans. Ça comptera peut-être pas dans nos statistiques, mais c'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir avoir mis en place cette dynamique où le porteur de projet, il arrive à se retrouver une harmonie entre son projet professionnel et sa vie personnelle. Voilà. J'ai fait en sorte d'être très bref pour... Mais vous allez peut-être avoir des questions.
Merci, très bien. Ben justement, les questions sont ouvertes.
Est-ce que vous pourriez nous dire, nous donner quelques exemples de projets phares que vous avez pu porter, par exemple ?
Alors, on a eu quelques projets donc, de créateurs de sites web, dont un créateur qui a réussi à très bien s'en sortir en changeant. Il a répondu à une commande très rapidement qui était de refaire le site de LVMH. Donc, très belle commande. Après, on a des porteurs de projets qui vont être sur des réussites plus classiques. J'ai plus tendance à mettre cela en avant aussi. Donc ça va être de la pension canine à domicile, par exemple. Ça va être de la vente ambulante ou des prestations de photographe. Donc, et là, on est vraiment sur des enjeux de les aider à développer leur carnet d'adresses. Mais on est souvent sur des micro-projets, donc projets de vente ambulante ou projets qui nécessitent peu de moyens au démarrage, en règle générale.
D'autres interventions ? Jean-Marc ?
C'est une question pour tous. Est-ce que, comment vous appréhendez le fait qu'ils puissent travailler ensemble, justement, même s'ils ont des projets différents ? Quelle synergie ou quelle méthodologie, je pense aussi aux projets scientifiques qui sont peut-être pertinentes pour les aider ou les favoriser à travailler ensemble.
La question est complexe. Alors j'ai pas de réponse absolue à ça parce que c'est. Je constate que cette année ça fonctionne pas comme l'année dernière et j'ai beaucoup de réflexions autour de ça. C'est une aventure humaine qui parfois prend, parfois prend pas. Un ingrédient qui va très bien marcher, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que si c'est un groupe qui est à l'initiative du projet, le groupe va beaucoup plus spontanément avoir tendance à se structurer et chacun va beaucoup plus être dans une dynamique, tandis que si effectivement on est dans quelque chose de pluriannuel, ceux qui arrivent et qui n'étaient pas porteurs du projet initialement vont avoir beaucoup plus de mal à contourner les obstacles, en fait, justement, pour le coup. Et donc dans ce sens-là, voilà. Alors après, comment, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à créer une dynamique? Là, comme ça, j'ai pas de réponse plus que ça. Là, non, là comme ça, j'aurais besoin d'y réfléchir.
De mon côté, donc quand ils rentrent dans le parcours de Créa-Jeune, il y a beaucoup de jeux. C'est très ludique dans un premier temps. On est beaucoup autour du briser la glace, où ils apprennent à faire connaissance les uns avec les autres. Et en règle générale, la synergie se fait assez naturellement. Sur 42 sessions que j'ai eu l'occasion de suivre, il y a juste une session où ça n'avait pas pris. Mais sinon, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Et il y a une bienveillance naturelle qui se met en place entre les porteurs de projets.
Dans le cadre associatif, comme j'ai dit au début, c'est vraiment le projet qui va être le socle, je pense que le socle commun. Donc, sûr que si les personnes n'adhèrent pas au projet et aux valeurs de l'association, il est certain qu'elles ne seront pas impliquées, qu'elles seront pas motivées. Donc, je pense que c'est surtout ça pour que la synergie entre les personnes, c'est vraiment essayer de trouver des compromis par rapport au projet.
Oui, moi je me posais la question, vous avez parlé de synergie avec d'autres acteurs. Qui sont ces autres acteurs qui agissent avec vous, qui interagissent avec vous, enfin, je ne sais pas.
Alors, je travaille beaucoup avec les ateliers de la création, quel que soit le territoire. Donc, ils sont des ateliers régionaux qui mettent en place notamment le système de financement de bourse régionale Désir d'entreprendre. Après, je travaille avec certains interlocuteurs au sein des chambres consulaires. Ils ne me connaissent pas tous, mais il y en a certains avec lesquels je travaille et qui sont assez réactifs et bienveillants eux-mêmes. Après, pour vous faire un autre listing, il y a quelques banquiers avec lesquels je travaille également, notamment sur des projets qui vont être un petit peu plus importants ou des cabinets d'expertise comptable. Mais je pense que je dois travailler avec une vingtaine d'interlocuteurs. Par contre, vous faire une liste comme ça serait peut-être un petit peu rébarbatif sur le coup, et j'ai peur d'en oublier quelques-uns en le faisant de mémoire. Alors, nous avons des jeunes, notamment des jeunes qui œuvraient dans la communication, qui nous ont dit, on te remercie Guillaume et on remercie Ladi pour ce que vous nous avez apporté. On a envie d'apporter quelque chose à notre tour. Donc, ils sont bénévoles et ils interviennent notamment autour de tout ce qui est communication d'entreprise. Et c'est des jeunes entrepreneurs également.
Voilà, si. S'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour ce soir. Merci en tout cas aux uns et aux autres d'avoir répondu à cette invitation. La prochaine table ronde, c'est donc, le 29 avril, ça sera sur les centres-villes. Et là aussi, juste un point de détail, parce qu'on a parlé d'éducation nationale tout à l'heure, qui était un petit peu parfois. Mais à chaque fois, jusqu'à présent, on a trouvé un exemple. Une fois, c'était un instituteur qui faisait des tweets dictés. Là, c'était vous. Et la prochaine fois, pour le centre-ville, c'est un enseignant de Châtellerault qui fait un travail avec ses élèves de revitalisation des vitrines du centre-ville, qui en a bien besoin à Châtellerault, pour ceux qui y habitent. Donc on a quand même des exemples, malgré tout. Et ça rejoint peut-être ce que tu disais, Jean-Marc. C'est au fond, c'est les personnes qui comptent plus que les institutions. Le problème, c'est qu'il faut passer beaucoup de temps pour les regarder, pour les voir et pour les découvrir. Et voilà. Alors, on a essayé aussi aujourd'hui, à travers cette table ronde, par des regards très croisés, très contrastés, de susciter aussi des étonnements et des questionnements. À vous de vous en servir. Voilà. Bonne soirée.